Bon, écoutez, on va peut-être commencer. Tout d'abord, merci de votre présence. Bonjour à tous. Pour cette dernière table ronde de l'année 2015. Ensuite, en 2016, on a un programme tout à fait développé, mais je vous ferai passer l'information. On a quatre de prévues, une sur les jeunes et l'entrepreneuriat, une autre et le projet, une autre sur les langues, la créativité des langues. Une troisième sur les centres-villes, et Dieu sait si c'est un sujet d'actualité. Pour être passé à Thouars l'autre jour, j'ai été frappé par la difficulté d'animer les centres-villes. Et donc, on aura une table ronde sur cette question. Et la quatrième sera sur le tourisme. Vous avez vu ce matin dans la presse, d'ailleurs, la Vienne va créer son agence de développement, d'attractivité et de créativité. Donc, enfin, c'est la Vienne et le Poitou, d'ailleurs, j'ai cru comprendre. Voilà. Donc, on va tout de suite passer au sujet de cet après-midi qui nous a réunis. Tout d'abord, excusez Didier Moreau qui lui-même est retenu à la COP 21 à Paris en ce moment, mais qui nous encourage à travailler de notre côté, territorialement et régionalement, ce que nous allons faire. Donc, cette table ronde, on va la faire vivre au rythme des intervenants des uns et des autres. Et là, on va commencer tout de suite. Et avant de peut-être de commencer, je voulais juste vous signaler un livre qui vient de sortir, dont j'ai écouté quelques extraits hier sur France Info, qui me paraissent tout à fait d'actualité par rapport à ce que nous essayons de faire. Ça s'appelle L'entreprise cerveau, petite apologie de la curiosité. C'est Dominique Mauclie. Je ne sais pas du tout qui est cet auteur. En tous les cas, pour l'avoir écouté hier sur France Info, je trouvais intéressant. Je vous livre juste quelques éléments de ce livre. En résumé, il dit entre autres: aujourd'hui, la France souffre du syndrome du silo. Elle fonctionne de manière trop fermée et compartimentée, ce qui explique en partie son incapacité à sortir de la crise. En effet, le développement de ses atouts est freiné par un modèle cloisonné et la faiblesse des connexions entre acteurs, pardon. Deux écueils qui limitent les synergies et brident la créativité. Ce mal frappe aussi bien la société que les entreprises de notre pays. Je ne vous développe pas ensuite, mais en tous les cas, c'est ce que nous essayons de faire. On va le faire, on va essayer d'en faire la démonstration encore cet après-midi, en réunissant des gens qui, a priori, si on n'avait pas pris la peine de les solliciter, je pense qu'on ne se serait jamais rencontrés, peut-être. Enfin, on ne sait jamais. Mais bon, en tous les cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Tout comme on l'avait fait le week-end, la semaine dernière, où on avait à la fois des technologues, on peut dire, et un crieur public, qui n'avait pas grand-chose à voir avec la technologie. Mais justement, son apport était assez intéressant. Je crois qu'il y a des gens dans la salle qui ont vécu l'expérience de la semaine dernière. Donc voilà. Et quand je vous dis le programme des tables rondes de l'année prochaine, c'est dans cet esprit-là que nous allons essayer de les développer, évidemment. Donc justement, concrètement, pour passer à un exemple vivant, Monsieur Richard va nous présenter, va dire quelques mots sur le Corbeau Blanc quand même, ce que vous faites, parce qu'on avait déjà eu un intervenant qui était venu nous faire de la musique avec des instruments recyclés. Donc c'était dans la même veine. Et je crois que vous le connaissez bien. Donc je vous laisse la parole. Vous présentez cet outil un peu curieux, différent.
Merci de nous avoir invités pour présenter cet outil qui a été fabriqué par l'association Corbeau Blanc qui gère une recyclerie à Caux, dans le sud de Vienne, en milieu rural. Donc en fait, on est parti de deux éléments de pensée qui se sont rencontrés. On récupère énormément de cadres de vélos. On en répare une certaine partie qui redeviennent des vélos, et puis on a le reste qui part aux métaux, quoi. Et puis parallèlement, on a aussi des gens en milieu rural qui font du jardinage, qui ont mal au dos, qui voilà. Donc on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire un support pour ces outils de jardinage en se servant des cadres de vélos? Donc je vais quitter. Avoir un outil qui nous permet de ne pas du tout forcer, de ne pas porter. Alors là, il est réglé, parce que normalement, là, le sarcloir va sous terre, puisque vous grattez la terre. Donc voilà, donc c'est pile à mon niveau. Après, bon, on peut le régler suivant la taille des personnes. On est parti sur ce premier projet, cette première idée au départ. Donc l'idée, c'est de supprimer la fourche avant, garder simplement la roue arrière et le cadre. Ensuite, on s'est dit, bon, le sarcloir, c'est bien, mais en fait, on peut y adapter tous les outils qui ont un mouvement parallèle au sol. Ça va, la binette, mais on peut aller sur du balai à gazon, balai même sur surface dure. On peut y mettre un rouleau, des rouleaux avec des petites pointes, des scarificateurs pour aérer la terre. On peut vraiment mettre tous les outils, ne serait-ce que des outils juste pour gratter la terre, pour faire un sillon. Et donc on est en train de, petit à petit, on s'est dit, voilà, ça pourrait être un excellent débouché aussi pour nos cadres de vélo qu'on recycle. Donc on travaille sur deux outils actuellement. Un outil épuré comme celui-ci, où il y a quoi, il y a tout cassé, une heure et demie de boulot de main-d'œuvre là-dessus, et un produit beaucoup, un peu plus sophistiqué, où on garde le porte-bagages à l'arrière, qui permet de, en mettant une petite, un petit panier métallique, on peut garder éventuellement les autres en bout. Quand vous faites une activité, vous pouvez faire suivre les autres en bout. Faire suivre, si vous êtes en train de faire des semis, vous pouvez garder les semis dessus, vous pouvez garder les plants, vous pouvez mettre des légumes, enfin, voilà, quoi. Donc on est parti d'un simple constat que ce cadre-là pouvait nous rendre la vie un peu plus facile et en même temps diminuer nos tonnages de déchets à enfouir ou à détruire. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, en fait, et on y prend beaucoup de plaisir parce que bon, on améliore plein de petites choses au fur et à mesure, quoi. Et normalement, l'association pourra en commercialiser quelques-uns à partir de janvier, puisque aussi... on a des salariés qui... Il faut bien les payer, quoi.
Voilà.
Il faut pousser. En tirant, c'est possible.
C'est possible aussi. Si vous êtes, par exemple, pour si c'est pour utiliser cet engin-là et que c'est dans une prairie raide où vous voulez avoir que des mauvaises herbes, dans le détail, c'est vrai que quand c'est pour de la binette, c'est plus facile à pousser. Mais par contre, en mettant l'outil dans l'autre sens, on peut aussi tirer vers soi. Et nous, on a opté pour le guidon... vertical, parce qu'en fait, à travailler un petit peu plus longtemps, quand on est main à plat, on fatigue beaucoup plus vite au niveau des épaules, alors que quand on travaille main verticale, on a plus de puissance et on se fatigue moins. Donc, comme on a l'embarras du choix sur les guidons, on est parti sur les guidons plutôt entre guillemets courses.
Donc, vous pouvez inverser
l'outil. Oui, parce qu'en fait, il y a un démontage rapide qui se fait ici, grâce juste avec une goupille. Comme ça, vous sortez, vous interchangez, et vous pouvez aussi changer juste l'embout. Et quand vous mettez cet embout-là, vous pouvez à la fois tirer et pousser. Il y avait un outil qui, dans le temps, nos anciens appelaient ça un tire-pousse, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelait, c'est une lame tranchante devant et tranchante derrière, qu'on passait juste sous la terre pour couper les racines. Et ça coupait à la fois en poussant et à la fois en tirant. Là, on peut l'utiliser de la même façon, en tirant et en poussant.
Mais est-ce que c'est pas un outil plus pour le tiers-monde? Parce que les gens, s'il vous plaît, sont feignants, ils préfèrent un engin métallique. Hein.
On a quand même pas mal de maraîchers qui nous ont contactés et qui sont intéressés entre autres dans des serres, par exemple.
Ah, voilà.
Oui. Dans des serres, ça permet de ne pas avoir de gaz d'échappement. Et puis, il y a quand même un petit côté. Moins on utilise de moteurs à explosion, pas mal c'est, quoi.
D'autres, juste quelques questions peut-être sur cet outil. Comment s'appelle-t-il d'ailleurs ?
Alors oui, nous on avait appelé ça un vélo sarcleur ou une bicerclette. Après, on peut s'amuser. Hein. On l'appelle comme on veut. Principal, c'est de pouvoir s'en servir.
Bicerclette, à
retenir. Bicerclette. Oui, parce que outre l'invention, il y a l'invention sémiologique, je trouve assez intéressante. On pourrait faire appel à la chanson d'Yves Montand d'ailleurs à bicyclette pour la même occasion.
Non, on n'a pas déposé de brevet, sachant qu'en même temps, on travaille. Si on conceptualisait complètement l'engin, oui. Mais là, on travaille que... tous les cadres sont différents. Enfin, on l'adapte. C'est pas facile de partir sur... Et puis, c'est pas forcément le but de la manœuvre. Si déjà les gens pouvaient s'en faire eux-mêmes... Parce que pour s'en faire soi-même, il faut une carcasse de vélo. Donc ça, à la limite, même en allant en acheter une, pour 10 euros, vous l'avez. Et puis les outils, c'est des embouts d'outils normaux qui se mettent normalement au bout de manche. Oui. Il suffit d'adapter avec simplement un simple tube, une tige filetée ou une goupille. Et c'est quelqu'un qui bricole un peu, qui a un poste à souder, il y a pour 2 heures de boulot. Quoi.
Et la roue, c'est une roue pleine.
Alors celle-ci, on l'a pris pleine parce qu'on a fait des essais dans des milieux épineux. Donc on crevait souvent. Mais on a fait aussi, pour travailler sur plutôt dans des jardins, on a aussi fait que la jante avec des roues de VTT. Les jantes sont plus larges, ce qui fait que ça permet de ne pas s'enfoncer dans le sol. C'est assez intéressant aussi. Et puis après, c'est en fonction de la taille de la personne, vous choisissez une roue plus ou moins grande. Puis après,
Est-ce qu'il y a des tests qui sont faits sur le cadre? Parce que comme il y a un changement de destination de cadre au niveau des vibrations...
Non, on n'a pas essayé avec les...
Parce que comme ça va être vendu, à mon avis, il va y avoir plus de vibrations, il va y avoir les outrages en fait, du terrain, des terres accidentées. Est-ce qu'on peut estimer à peu près un temps de durée de vie?
Ça dépend comment la personne s'en sert, ça c'est sûr. Mais si... Parce que celle-ci, bon, c'était notre première, on n'avait qu'une seule goupille. C'est clair que quand on fait des choses un peu plus... Ça demande un peu plus de force, il vaut mieux avoir deux points d'ancrage.
Ouais. Parce que ça va tirer...
Un ici, puis un 20 cm plus haut.
Parce qu'un cadre fait comme ça, il est fait pour porter un corps.
Oui, puis là où ça risque de s'abîmer, c'est chaque côté du truc, la perforation, ça risque
à force... Au niveau des soudures, des choses comme ça.
Enfin, je pense qu'il va falloir qu'il tire dessus quand même. Oui, franchement. Parce que celui-là, ça fait nous déjà presque un an qu'on l'a, et on l'a un peu testé dans...
Il tient, en tout cas,
pour l'instant, il tient toujours. Quoi. C'est le pneu qui nous a posé le plus de problèmes, en fait. Parce que dès qu'on est sur des parties, en plus, on a fait dans des coteaux, il y avait des acacias, le pneu,
on n'aime pas. Parce que comme on parlait à l'instant des pays en voie de développement, c'est sûr que ça, c'est un problème énorme dans les pays en voie de développement. C'est justement le fait que le produit dure dans des conditions extrêmement faibles.
Alors par contre, c'est simple. Pour avoir un petit peu été au Burkina, quand on va faire un truc comme ça qui dure, on ôte le pneu, on coupe des bandes de chambre à air qu'on colle dessus, et on refoule le pneu par-dessus et là, vous n'aurez pas la jambe.
Ah, vous voulez que j'intervienne?
Non, vous voulez, je crois.
Ah bon, bon.
Vous présentez en même temps.
Ah, d'accord. Alors, j'ai été invitée tout simplement parce que mercredi prochain, je fais une conférence sur quel est le seul frein à mon bonheur. Mais sinon, pour en revenir, puisque j'ai le micro, j'ai un engin qui a été fabriqué à partir d'une roue de vélo. Et effectivement, maintenant, je ne regonfle plus, je le fonctionne comme ça. Et puis, ça fonctionne. Par contre, il est fixé sur... Deux axes, et j'ai une lame qui traverse. Ça me permet, quand j'ai des petites pousses dans mon jardin, de passer, de soulever les petites pousses qu'elles ne se poursuivent pas. Mais c'est fixé sur deux axes, et c'est pas parti d'un engin de jardin que j'ai fixé dessus sur le support. C'est une lame que j'ai aiguisée et que j'ai mis comme ça. Voilà. Oui, qui coupe ou qui... Ouais, qui est un peu incliné aussi direction du sol, mais légèrement, pour pas forcer.
Merci pour le témoignage. Bien, est-ce qu'il y a d'autres... S'il n'y a pas d'autres questions, merci en tous les cas, ou d'autres... Vous voulez ajouter autre chose ?
Non.
Voilà.
Merci, par contre, de vous avoir invité.
Non, mais... Oui, rapidement, mais justement, c'est ça l'opportunité. La créativité, elle est en marche, donc chaque jour, voilà, il y a des choses nouvelles. Oui. On le savait. Merci en tous les cas.
On était un peu pris de court, je vous avoue. Si vous voulez éventuellement contacter Jackie Deniol qui vous fera passer les coordonnées, parce que c'est vrai que ça s'est fait un petit peu...
Mais l'article est paru hier ou avant-hier, je crois.
Avant-hier.
Oui. On s'est dit qu'il faut saisir l'occasion, c'était vraiment l'occasion rêvée. Enfin,
c'était un petit peu... Les autres de l'association n'étaient pas là, on travaille aussi.
Merci pour la présentation en tous les cas de cet objet. Oui, mais... Donc, merci. J'appelle Max Falk à la tribune, donc s'il veut bien venir, qui sera le premier intervenant, avec un point de vue sur la question qui nous anime. Et puis il y aura d'autres points de vue. Et l'idée, c'est justement d'organiser un débat le plus large possible, le plus ouvert.
Bon, je me présente Max Falk, un vieillard qui vient d'avoir 80 ans. Et j'ai, au cours des 40 dernières années, travaillé sur les politiques environnementales. Et je suis arrivé à la conclusion, partant d'une position classique d'ancien élève de Sciences Po Paris, qui considérait que l'État était la source de tout bien. On apprenait, par exemple, que les trains, les voitures, le logement, l'eau, les assurances, tout ça ne pouvait être fourni que par l'État. Et donc, je pensais que l'environnement... était du domaine de l'État. Puis progressivement, mon expérience m'a conduit à remettre totalement en cause cette vision et de considérer que la puissance publique était le plus grand ennemi de l'environnement et que les réglementations, poussées à leur extrême, aboutissaient à limiter les échanges et à détruire les droits de propriété. Et l'évidence, c'était de regarder ce qui se passait, par exemple, en Allemagne de l'Est et ce qui se passait en Allemagne de l'Ouest, dans un régime où les droits de propriété étaient totalement supprimés. On a eu, disons, la ruine économique, ça on le connaît, et ensuite la ruine environnementale. Donc il y a bien une relation entre l'excès de réglementation et la destruction de l'environnement. Donc à partir de là, j'ai monté, avec bien d'autres, 9 conférences internationales qui portaient sur le thème tout droit de propriété, économie et environnement, et qui démontraient que dans pas tous les cas, mais dans de très nombreux cas, l'appropriation privée, publique ou commune était, disons, une très bonne alternative à la réglementation et souvent plus efficace. M'appuyant là-dessus sur des gens peut-être que vous avez entendu parler, notamment Gareth Hardin, qui a écrit The Tragedy of the Commons, Elinor Ostrom, Governing the Commons, et Hernando de Soto, Le mystère du capital. Voilà les 3 grands inspirateurs de ce que j'ai essayé de faire. Donc, voilà où nous en sommes. Le deuxième point que je voudrais développer, c'est que nous avons la 10e conférence internationale que nous avions prévue pour 2016 à Duplon dans l'Aisle. Il s'agit d'une conférence qui porte sur, j'ai là tout le programme, sur l'environnement, le temps de l'entrepreneur. Autrement dit, il n'y a pas de vie économique sans entrepreneur. L'entrepreneur est absolument la base de tout. Dire, c'est sans entrepreneur, il ne se passe strictement rien. Et ceci est vrai aussi pour l'environnement, et que l'innovation environnementale est absolument capitale. Donc ça, c'est un thème qui est maintenant, au moins au niveau du rôle de l'entrepreneur dans la vie économique, est reconnu, ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années. Enfin, disons, un entrepreneur était quand même quelqu'un qui était très, très, très déplaisant. C'était un ennemi public de la société. Maintenant, on se rend compte que sans entrepreneur, il ne se passe rien. Donc, simplement sur ce thème, ce qu'on appelle un éco-entrepreneur, il y a une littérature considérable dans la littérature anglo-saxonne, mais aussi en France, sur l'entrepreneuriat, peu sur l'éco-entrepreneuriat. Alors, voilà ce que l'on donne comme définition. L'éco-entrepreneur est un acteur économique qui rassemble les moyens pertinents et novateurs pour transformer les enjeux environnementaux en atouts et possibilités de profit. Et là, si vous voyez, il faut bien se distinguer de l'entrepreneuriat social, qui n'a pas un objectif de gagner de l'argent. Là, par contre, il s'agit de gagner de l'argent, et ce qui est loin d'être évident. Enfin, voilà où nous en sommes. Alors, la difficulté, on a discuté durant le repas, c'est le fait que ces conférences sont très lourdes à monter, sont des conférences internationales, bilingues, avec traduction simultanée, enfin, c'est de grosses machines. Et à l'heure actuelle, avec la réduction des budgets des collectivités locales, sur lesquelles je m'appuyais largement en Provence-Côte d'Azur, puisque ces réunions avaient lieu, ces conférences de 3 jours avaient lieu à Aix, tous les budgets sont diminués. En fait, pour les collectivités locales dans la région aixoise et marseillaise, tous les budgets sont diminués de 30%. Alors vous pensez bien que la priorité, c'est de payer les fonctionnaires et pas de développer des idées. Voilà où on en est. Voilà, en tout cas, on a quand même on a déjà 3 personnes qui participent au comité de parrainage. On a Emmanuel Macron, ministre bien connu, qui a des ambitions et des dents qui rayent le parquet. On a Ségolène Royal et on a le prince Albert II de Monaco. Ça fait très bien de mettre Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, qui a une fondation d'ailleurs, et qui nous donne son parrainage. Il nous avait donné autrefois un peu de sous, mais là, apparemment, on en obtiendra. Enfin, c'est assez difficile. Donc, voilà où on en est. Je ne sais pas où on va faire, mais enfin, moi, ma décision, c'est avant la fin de l'année, où on laisse tomber, où on part avec une collectivité locale. Je pense, je vais rentrer chez moi, je vais voir le résultat des élections régionales dimanche soir. On va voir qui va prendre la région Provence-Côte d'Azur. C'est sûrement pas les socialistes, puisqu'ils sont, disons, ils sont l'ancien président ne se représente pas, Vauzel, et que les socialistes dans les sondages sont très très loin derrière. Donc la bagarre, ça va être entre le Front National avec Marion Maréchal Le Pen et Estrosi, le maire de Nice. On ne sait pas ce qui va se passer, mais dès que j'aurai une indication, je vais rentrer en contact avec eux et leur dire, écoutez, voilà, vous avez c'est tout chaud, vous n'avez qu'à le prendre. Moi, je peux vous aider sur le plan intellectuel. J'ai déjà tous les contacts au niveau du monde entier pour les gens qui sont prêts à venir. Ils me demandent quand est-ce qu'ils doivent prendre leur billet d'avion pour venir. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer. Ceci dit, on restera en contact. Je suis sûr que ça intéressera beaucoup de gens. Ces conférences font l'objet d'actes et de publications. Et disons, ça constitue une somme. Nous avons à l'heure actuelle 9 bouquins sur droit de propriété, économie et environnement qui portent sur les ressources foncières, les ressources marines, l'eau, le rivage, les déchets, le climat, que sais-je encore, la biodiversité et enfin agriculture et forêt. Donc voilà à peu près, on a couvert le spectre des ressources environnementales en montrant chaque fois, ce sont des conférences qui sont très, très ouvertes, enfin je veux dire, il y a des pour et des contre. Je tâche d'avoir plus de pour que de contre, généralement, je fais un choix quand même pour avoir. Dans lequel on montre que les droits de propriété. C'est très complexe, les droits de propriété. C'est bon. Et le marché sont souvent une meilleure façon, plus économique et plus efficace de protéger et surtout de gérer les ressources environnementales que la réglementation pure et dure, disons, élaborée par une puissance publique, surtout une puissance publique centralisée comme en France. Donc, voilà. Et ensuite, je vous dirai un mot de ce que je pense de la COP 21. Pour vous donner l'ambiance dans laquelle, enfin, la façon dont nous voyons les choses, parce que disons quand même, j'ai fait intervenir environ 500, au cours des 9 conférences, il y a environ 500 intervenants qui sont venus. On a énormément de matière là-dessus. Et voilà, si vous voulez, ce que. Là, je l'ai en anglais, c'est stupide. Pourquoi j'ai pris en français, je l'ai quelque part. Attendez. J'aurais du mal. Oh merde, j'ai encore en anglais ça. Non, là, je l'ai en français. Oui, le thème, le mot d'ordre de nos conférences, elles sont placées tous sous le mot d'ordre suivant, l'imagination juridique et économique au service de l'environnement. Autrement dit, les outils juridiques et économiques sont très importants pour la protection de l'environnement. Alors, vous connaissez, si vous voulez, certainement vous avez entendu parler du discours de l'inégalité, sur l'inégalité de Rousseau, qui a largement inspiré une partie de la Révolution, et notamment Robespierre, et puis énormément de penseurs en France et à l'étranger. Alors, voilà ce que dit Rousseau. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant les fossés, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » 1755. Moi, j'ai fait, si vous voulez, une autre proposition, exactement reprenant la phrase de Rousseau, mais d'une façon, j'ai retourné complètement le truc. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez raisonnables pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres et de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargné au genre humain celui qui, plantant des pieux ou creusant un fossé, eût crié à ses semblables « Écoutez ce sage, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à ceux qui les produisent et que la terre appartient à ceux qui la fécondent. » Donc, si vous voulez, vous avez un total renversement de perspective où la propriété, sous des formes extrêmement diverses, parce que, comme je vous dis, la propriété, c'est absolument passionnant. C'est quelque chose d'extrêmement riche et on a intérêt à regarder ça. Bon, le dernier point, et j'en arrêterai là, je ne veux pas vous lasser, c'est le problème de la COP 21. Il se trouve qu'un des conférences que nous avons faites est portée sur changement climatique et pollution de l'air. Là, il y a eu des points de vue très différents qui se sont exprimés, et notamment, pour préparer cette conférence, j'ai été amené à lire plusieurs milliers de pages, et j'ai été, assez frappé par la vision historique de l'histoire du climat sur la planète, et notamment l'histoire du climat dans la France, telle que décrite par Emmanuel Leroy Ladurie. Depuis la période de la plus haute antiquité, enfin, pas la plus haute antiquité, le plus haut Moyen-Âge, c'est-à-dire la fin de l'Empire romain, jusqu'à nos périodes. En gros, pour simplifier, jusqu'en 1330, on a eu un climat très doux, analogue à celui que l'on a maintenant, avec même des pointes plus élevées, et de 1330 environ, 1335-40, jusqu'en 1860, on a eu un refroidissement qui s'appelle le petit âge glaciaire, et depuis 1860, on a eu une augmentation des températures. Pardon ? Voilà. Bon, c'est tout. Ça suffit, là. Hein ? Voilà. Donc, on en est là. Moi, si vous voulez, en regardant ensuite les courbes d'évolution du climat au cours des 20 000 dernières années, on les connaît, les températures au cours des 20 000 dernières années, on est frappé par les extraordinaires modifications de climat qui se sont faites en moins de 100 ans, c'est-à-dire que des hommes ont vu le climat. Et vous avez le plus bel exemple, moi qui m'a frappé, c'est la grotte Cosquer dans les Calanques à Marseille, qui est 45 mètres en dessous du niveau de la mer. Or, c'était la plage à l'époque. Ça veut dire qu'à l'époque, il faisait extrêmement froid. Les mers étaient extrêmement basses et que c'était l'époque préhistorique, mais il y avait des hommes qui vivaient là et qui ont vu le climat a changé avec des glaciers qui arrivaient jusqu'à Valence. Enfin, disons, ça a été. Donc, le climat, disons, ça a varié énormément. On est à l'heure actuelle dans une période de réchauffement. Ça s'est calmé au cours des 15 dernières années. Il se peut que ça augmente, on ne sait pas trop. Mais pour moi, la COP 21 est une vaste entreprise de mystification en faisant peur aux gens, parce que les hommes politiques, les médias et les scientifiques adorent faire peur aux gens parce qu'ils ont l'impression de servir à quelque chose. Donc voilà, moi je vois les choses suivantes. Et pour terminer, c'était en juillet 2013, j'étais dans le bureau d'Alain Madelin avec mon président Christian Stoffaes. Et c'est là où on a appris que la conférence, la COP 21, aurait lieu à Paris. Et Madeleine a dit, bon, ben c'est Hollande qui est en train de préparer sa réélection de 2017 en asséchant le fonds de commerce des écolos. Et il a réussi. Les écolos sont morts politiquement. Et parce que pour lui, son problème, c'est de ne pas avoir 4 ou 5% de vote écolo qui le disqualifie pour le premier tour. Voilà où j'en suis. Je vous remercie. Merci.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions précises? Sinon, on passe au témoignage suivant, puisque l'objet, c'est que tout le monde soit ensuite à la table et qu'il y ait un échange, bien évidemment. Ce n'est pas des monologues. Alors, une question précise et réponse précise.
Oui, bonjour. Florent Blanc, médiateur culturel, indépendant, entrepreneur, donc pour rebondir sur ce que vous disiez. Au-delà des considérations générales sur le climat, mais plus sur votre propos sur la gestion publique-privée, bon, c'est une question que je ne connais pas bien moi-même, mais simplement, vous disiez que vous aviez édité un livre sur le thème de la gestion de la forêt, et on a le contre-exemple exact de ce que vous disiez en France, avec la gestion de la forêt française, qui est à 80% privée, et on estime que c'est à cause de cette gestion privée qu'elle est particulièrement catastrophique et ratée.
Je vous répondrai qu'en Provence, privée ou publique, la forêt a doublé en moins d'un siècle. Donc quand on vous dit la forêt diminue, c'est totalement faux. Le gros problème, c'est l'augmentation de la forêt et le fait qu'elle envahit de plus en plus d'espace. Alors, sur le problème, vous avez parfaitement raison, l'exploitation de la forêt privée est mal faite. Elle est mal faite, pourquoi? Parce que, disons, vous avez eu, en 1789, et ensuite le Code civil, qui oblige à l'égale distribution des héritages. Donc, on a morcelé énormément la forêt, parce que chacun pouvait voulait avoir son bout de forêt, et effectivement, la parcellisation est extrême. Et donc, il est incapable, enfin, moi j'ai quelques hectares de forêt, on est incapable, disons, la forêt coûte une fortune à exploiter, ça coûte très très cher, on ne sait pas comment s'en sortir, et effectivement, elle est assez malmenée, et avec ça, il y a une loi qui, maintenant, c'est pas grand-chose, mais enfin, elle donne le droit de préemption pour les voisins d'une forêt lorsqu'il y a une vente, pour faire un peu, pour rattraper, disons, l'interdiction. Parce que là aussi, c'était c'est une atteinte au droit de propriété. À partir du moment où vous êtes propriétaire et que vous n'avez plus le droit de passer votre héritage à qui vous voulez, c'est une atteinte à vos droits de propriété. Et pour des raisons d'ailleurs tout à fait logiques, qui sont d'équité sociale. Mais en attendant, le résultat sur l'environnement, c'est qu'on a une forêt terriblement parcellisée.
Bien, donc je demande à Marie-Anne Robert Kerbrat de venir nous rejoindre, donc élue écologiste du Limousin. Donc vous savez comme moi que le Limousin, le Poitou-Charentes. Mais vous restez, Max, mettez au bout pour pouvoir ensuite débattre. Voilà, parfait. Donc élue écologiste de Limoges, enfin elle se présentera elle-même mieux que moi, je pourrais le faire. Et l'idée, c'est que, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, regard croisé, point de vue différent. Et on est un peu dans un esprit voltairien, c'est-à-dire qu'il y ait différents points de vue dans cette affaire. Voilà. Donc, si tu veux bien intervenir.
Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci, Jacqueline Doniol, de m'avoir invitée. Donc, j'arrive de Limoges, où je suis élue à l'Aglo en charge du développement durable. Je suis également conseillère municipale de Limoges et je suis une femme politique depuis l'âge de 18 ans, on va dire, militante politique. J'ai travaillé très longtemps auprès de députés et de sénateurs écolos. Je connais bien les problématiques dont a parlé M. Falk et je dois dire que ça faisait longtemps que je n'avais pas croisé un climato-sceptique parce qu'il y en a, Dieu merci, plus trop. Hein, voilà. je vous taquine. Hein. Moi, je vais vous dire très simplement, je pense que, on ne va pas parler de le roi, la durée, etc., mais je crois qu'il y a 500 personnes qui constituent le GIEC aujourd'hui, qui sont les plus grands climatologues du monde, qui ont fait un travail très difficile de prospection, de diagnostic. Qui, je pense, sont mieux fondés que vous et moi à avoir un avis sur ce qu'est le réchauffement climatique. Et moi, je choisis de les croire, pas parce que ça me plaît de savoir qu'on est dans une situation assez inquiétante, mais parce que je pense qu'effectivement, ces personnes-là sont légitimes dans le diagnostic qu'elles peuvent faire. Et je pense que sans confiance, si on n'est que dans la défiance, au bout d'un moment, on va vers le déni, voire parfois, vous le savez, l'histoire l'a montré, jusqu'à certaines formes de négationnisme. Donc je choisis de vivre dans un repère qui considère que ces 500... très bons scientifiques qui ont travaillé sur le climat et dont beaucoup étaient sans doute climato-sceptiques au départ, ont établi un diagnostic qui s'affine d'année en année et qui tente à montrer qu'au niveau planétaire, nous sommes dans un processus de réchauffement climatique dont la vitesse est inédite, un nouveau moment de l'histoire de la planète qui est extrêmement court à l'échelle de la création, de l'existence de notre planète et qui s'appelle l'Anthropocène. Pour parler de la question du territoire et du politique, puisque moi, c'est de ça que j'aimerais vous parler, je crois qu'effectivement, la société civile et le monde de l'entreprise peuvent faire beaucoup de choses. Je ne crois pas que le monde de l'entreprise soit la solution à la lutte contre l'environnement, contre les problèmes de l'environnement, ou alors peut-être à la lutte contre l'environnement, effectivement. Sinon, ça se saurait. Je ne pense pas non plus que seul l'État puisse, en étant interventionniste, régler tous les problèmes. Mais je pense que c'est bien une synergie qui doit s'exercer entre, d'une part, nous-mêmes en tant qu'êtres humains qui faisons notre propre transformation et qui devons effectivement, pour changer de modèle, comme on dit, renoncer à un certain nombre de schémas de pensée qui nous ont conduits là où nous sommes. Ces schémas de pensée qui sont la peur, dont on a parlé tout à l'heure, la peur du lendemain, le fait de substituer à l'angoisse des possessions éphémères de biens matériels. Alors, cela étant dit, depuis que le monde est monde, depuis que nous sommes passés de chasseurs-cueilleurs à chasseurs-cueilleurs-stockeurs, comme le dit si bien Alain Testard, ce moment-là où probablement nous avons inventé le capitalisme, nous avons effectivement monté nos exigences en termes de sécurité, en termes d'enrichissement, en termes de tout ce qui fait que nous sommes, en termes artistiques aussi par exemple, tout ce qui fait que nous sommes devenus encore plus des hommes. Mais aujourd'hui, il nous faut probablement renoncer à certaines choses, et en particulier à la toute-puissance. La toute-puissance qui fait que nous nous croyons supérieurs, supérieurs au temps qui passe, supérieurs aux autres espèces vivantes, supérieurs à tout ce que l'homme a créé jusqu'à présent, et qui fait que nous souhaitons continuer à travailler sur du court-termisme, sur du bien-être immédiat, aussitôt contrarié par la frustration qu'il génère aussitôt. Vous allez voir après l'époque des cadeaux de Noël, etc. Alors, à quoi sert la puissance publique pour vivre dans un environnement meilleur? À un moment donné, elle peut être levier, parce que, Monsieur Falk, vous parlez de la propriété privée, mais il y a beaucoup de choses qui n'appartiennent pas au privé. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les animaux, par exemple, le reste du vivant, qui aujourd'hui, je pense par exemple à un des grands acquis du mouvement écologiste au niveau du Parlement européen, par exemple, le peu de réglementation qui existe sur le bien-être animal est une conquête clairement du mouvement écolo au niveau du Parlement européen aujourd'hui, qui définit les réglementations. Quel animal aurait la capacité de se retourner contre celui qui le fait souffrir et qui ne défend pas ses intérêts? Ne faut-il pas que la puissance publique, à un moment donné, soit là pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes? L'environnement est une entité vaste et mérite probablement que des hommes portent le droit au respect qu'elle peut avoir. Si on va plus loin dans le passé, on peut faire des analogies qui c'est peut-être un peu grossière, mais par exemple sur le travail des enfants, les enfants à l'époque n'auraient pas pu se retourner contre leurs employeurs pour demander à ne plus être sur le marché du travail, exploités, etc. Voilà. De la même manière, je pense par exemple, il y a des atteintes à l'environnement qui sont faites de façon diffuse et qui peuvent difficilement être uniquement dirigé vers une personne ou une autre. C'est pour ça que, par exemple, en France, si vous balancez des déchets toxiques sur la voie publique, eh bien, vous pouvez être puni de 5 ans d'emprisonnement, même si il est compliqué de définir aussitôt quelles seront les victimes que vous allez faire. Alors, Sur les territoires, je voulais vous faire partager un exemple concret qui est assez récent. Il y a quelques années déjà, plusieurs collectivités territoriales ont lancé un mouvement qui s'appelle les territoires à énergie positive. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un mouvement de territoires qui se sont pris en charge et qui se sont auto-organisés en partage d'expériences, en mutualisation de savoir-faire pour essayer de diminuer leur empreinte carbone et d'être proactif, y compris dans la sphère de l'entreprise et dans la sphère de la société civile, pour engager des changements de comportement. Et ces territoires à l'énergie positive, qui font donc l'objet d'une labellisation, ont été repris par la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, récemment, enfin, après avoir été nommée ministre de l'Environnement. Et elle a fait un appel à projet auprès de toutes les collectivités pour essayer de faire monter en puissance ce mouvement des territoires à énergie positive. Et là, donc, il y avait une carotte, évidemment, qui était des subventions qui pouvaient aller jusqu'à 2 millions d'euros pour booster des projets. Alors, je sais que, par exemple, en ce qui concerne ma collectivité, on a obtenu le maximum de subventions. Nous avons été lauréats, on a fait partie des 11 premiers lauréats. Même si 2 millions d'euros, c'est extrêmement intéressant, c'est pas ça qui nous a fait réellement décider de s'engager dans la démarche. Mais en tout cas, ça a fait quand même levier, clairement. Ça nous a permis de booster des projets et d'aller beaucoup plus vite. Par exemple, à Limoges, contrairement à vous, à Poitiers, nous n'avions pas de réseau de location de vélos et on en était bien tristes. On avait ici une flotte de 30 vélos qui étaient loués pour les étudiants au prix de 9 euros par mois. Et typiquement, cet appel à projet nous a permis, cette labellisation nous a permis d'acheter d'un coup 400 vélos, dont 250 véhicules, enfin, vélos à assistance électrique. Et aujourd'hui, à Limoges, quand on se promène, ça a changé parce qu'on voit des vélos orange partout. Ils sont orange bien, bien visibles. Quand vous allez sur les campus, puisque maintenant le vélo est, pour les étudiants, vélo non électrique est à 1 euro par mois. Vous avez des vélos orange partout sur les campus, à chaque réverbère, à chaque arceau de vélo. C'est assez sympa. Et voilà, donc nous sommes engagés dans cette démarche et nous sommes plutôt satisfaits, effectivement, de l'impulsion que nous a donné le ministère et via la Caisse des dépôts. Et nous sommes, territoire à énergie positive, donc collectivité locale, et moi, je peux témoigner en tant qu'élu, content aussi, très conscient de notre rôle et heureux de pouvoir le remplir du mieux que nous pouvons sur le fait d'acculturer les personnes à la nécessité d'être moins gourmand en énergie et à baisser son empreinte carbone. Voilà. Sur le climat, donc moi je me rends à la COP lundi et mardi. J'étais déjà observatrice à Montréal à la COP de 2007 et je m'étais fait une remarque d'ailleurs je me souviens qu'à l'époque j'avais donc 35 ans on va dire. Et ce qui m'avait marqué en Amérique du Nord, il y avait donc toutes les grosses ONG internationales qui étaient là, Greenpeace, WWF, Pew Charity Trust, etc. Et c'était marrant parce que la délégation française, quand on avait 45 ans, on était vraiment limite un ado, quoi. Et tous les représentants d'ONG d'Amérique du Nord avaient moins de 30 ans. Et d'Amérique du Sud aussi, d'ailleurs, je précise. Et c'était vraiment étonnant de voir cette vieille Europe qui ne faisait pas confiance à la jeunesse, quelque part, ce nouveau monde qui mettait en première ligne, comme dirigeant de grosses ONG, des personnes qui avaient 25 ans, quoi. C'était assez stupéfiant. Et donc, par rapport à la COP, je suis assez optimiste par rapport aux enjeux de celle-ci. Montréal, ça avait été pas mal, on avait pas mal avancé sur la déforestation, mais je veux dire, ça se passait au Canada qui publiait un bilan d'augmentation de carbone de 6% en un an, donc on rasait un peu les murs et encore, on n'avait pas commencé l'exploitation des sables bitumineux, donc c'était quand même un petit peu compliqué. Aujourd'hui, à Paris, je crois qu'on est parti sur la bonne voie. Qu'il y ait un texte contraignant ou pas, enfin, ce que je veux dire, c'est que même si on a un texte contraignant, si derrière il n'y a pas d'exercice de la contrainte, ça ne sert pas à grand-chose. Je crois que c'est surtout le fait de, d'arriver à une décision, à une volonté et à une mise en mouvement, si vous voulez, de la lutte contre le réchauffement climatique, donc de la décarbonisation de l'énergie, qui est plus importante sans doute que de savoir vraiment dans le détail quel mécanisme, parce que de toute façon, ça va évoluer. Vous aurez noté aussi que les citoyens et les entreprises peuvent faire beaucoup là-dessus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du mouvement Alternatiba. À l'occasion de la COP21, il y a une centaine de villages Alternatiba qui se sont montés en France et où les gens montraient leurs alternatives. Nous, à Limoges, on a eu 4000 personnes qui se sont déplacées. On va dire les 2000 personnes du peuple écolo local et 2000 personnes qui sont venues par curiosité et qui n'avaient jamais fréquenté ce genre d'initiative ou ni de près ni de loin. Donc c'était plutôt sympa. Voilà. Je ne sais pas si...
Non, c'est bon. C'est bon, mais peut-être juste un rajout sur cette notion de créativité, d'entrepreneuriat au sens large. Moi, je l'utilise au sens large, d'entrepreneuriat créatif ou d'éco-entrepreneuriat. Est-ce que...
Oui. Alors, c'est... Bon, je crois, tout comme vous, Jackie Deniol, que la créativité, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'entends bien d'ailleurs ce que vous avez dit, monsieur, sur le fait de desserrer la contrainte réglementaire pour pouvoir laisser s'exprimer la créativité à un moment donné. Sur notre territoire, nous essayons aussi de mobiliser la société civile, les entreprises et les collectivités pour justement essayer de libérer cette créativité et de se dire que on n'a pas raison tout seul et qu'en étant ensemble, on peut arriver à faire des choses intéressantes. Chez nous, par exemple, nous sommes vraiment en train de construire des choses intéressantes sur l'économie circulaire, qui est un enjeu très, très important. Donc, on a fait se rencontrer des questionnements sur l'insertion professionnelle, des questionnements sur le gaspillage alimentaire, des questionnements sur l'emploi local, etc. Et on est en train, par exemple, de mettre en place, enfin ça y est, là c'est fait, une démarche de récupération des invendus de pain ou de pain rassis chez les gens. Donc en collecte privée, en collecte d'invendus de supermarchés, etc. Et on a cette entreprise que nous soutenons fortement qui fabrique donc de l'aliment pour les poissons et les porcs à base donc de pain qui sinon constituerait un déchet qui est assez compétitif. On arrive à 300 euros la tonne, donc on est un poil moins cher que l'aliment classique. Enfin voilà, ce sont des exemples parmi d'autres. Je pourrais en citer des tonnes, mais voilà, c'est vrai qu'on se rend compte qu'au départ, en mettant dans le même pot et en agitant un peu des gens qui se demandent un peu ce qu'ils peuvent avoir à faire ensemble, eh bien, on se rend compte qu'on peut, on tire le fil et puis on peut avoir tout un tas d'initiatives qui font du bien à tout le monde, qui nous ouvrent l'esprit. Et voilà.
Merci pour ce témoignage. Je voudrais juste rajouter justement un témoignage que j'ai vu aussi à Limoges. Enfin, j'ai rencontré les deux chefs d'entreprise, ils étaient dans notre réunion. C'est donc deux chefs d'entreprise qui ont fait appel à un musicien ponctuellement et qui travaillent avec leurs salariés sur le montage de spectacles au bout de 6 mois. Et ils ont proposé ça à d'autres entreprises du Limousin, malheureusement. Peu encore ont réagi, mais je trouve que voilà, ce type d'initiative intéressante, au même titre qu'on en parlait tout à l'heure, avec le président du CJD, on a fait une réunion où il y avait une professeure de latin, une philosophe et un artiste qui étaient dans l'entreprise. Donc moi, je crois beaucoup à ce genre de change, d'échange un peu différent, mais des gens qui ne s'attendent pas forcément. Et franchement, je vous remercie tous les deux pour l'instant, parce que c'était pas forcément un pari facile à tenir, hein, d'avoir des gens qui sont pas forcément... Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans un esprit voltairien. Je pense que la France souffre malheureusement de ce manque de débat d'idées, des gens qui se ferment au débat d'idées. Et vraiment, il faut ouvrir ça, sinon on va mourir. Voilà. Donc je laisse la parole maintenant à M. Bricot, en tant que chef d'entreprise, et qui va peut-être nous dire justement, lui, sur cette notion de créativité, d'éco-créativité. Et puis il peut réagir évidemment aux propos qu'il a entendus par ailleurs. Et puis peut-être se présenter aussi, parce qu'il est aussi président d'une association de chefs d'entreprise.
Oui, bonjour. Donc, je suis Franck Bricot, donc chef d'entreprise. J'ai un bureau d'études thermiques, donc créé en 2008, donc ça fait maintenant 8 ans, basé à Poitiers. Donc, on a également une agence à Limoges et une autre à Bressuire. Entreprise qui a été créée sur une idée, pour la petite histoire, je le disais tout à l'heure à table, Je suis un ancien banquier. Et la banque, j'en avais marre parce que j'avais l'impression de tourner en rond, ne servir à rien et de brasser seulement de l'argent. Et ça a été une question éthique. C'est pour ça que le débat m'intéressait aujourd'hui. J'avais l'envie, en fait, de faire quelque chose d'utile. Et c'est vrai que la partie thermique, la partie un peu plus écologique, utile, m'a intéressé. Donc j'ai un bureau d'études thermiques aujourd'hui dont la finalité est d'assurer la performance énergétique des bâtiments. Donc voilà. Je suis également président d'une association de chefs d'entreprise qui s'appelle Capo Sud. Donc, c'est ça regroupe les entreprises du sud de Poitiers. Donc voilà, il y en a aujourd'hui à peu près 120, 130 entreprises, de la petite entreprise jusqu'à la très grosse entreprise. Alors je ne vais pas parler en nom de mes collègues et confrères. Pour autant, je suis en contact assez régulier avec tout un tas de collègues. Et donc, je sais un petit peu comment fonctionne un chef d'entreprise. Alors, avant d'entrer dans le débat, c'est vrai que j'ai entendu des choses. Je ne m'associe pas tout à fait avec tout ce que j'ai entendu. Je pense qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, l'entreprise, en fait, a besoin également de réglementation, a besoin d'un système, en fait, qui se souvient qu'on sert à quelque chose et on sert, en fait, la finalité, c'est l'homme. Avant toute chose, vous avez aujourd'hui des entreprises qui ne pensent pas qu'à faire de l'argent, qui ne pensent pas qu'à la propriété. Vous avez aussi des chefs d'entreprise qui considèrent qu'on peut être utile pour une véritable éthique et une finalité, à savoir l'homme. Un chef d'entreprise, c'est un homme, première chose. Et un chef d'entreprise, il emploie des gens et il est aussi au service de clients. Et un client, ce n'est pas simplement un chéquier ou un carnet de chèques. Ça peut être aussi une personne. Ça, il faut le savoir. Alors, c'est vrai que nous, entreprises, on peut parfois avoir une mauvaise image. J'ai des confrères chefs d'entreprise que je ne trouve pas forcément sympathiques. Enfin, après, ça, on est tous différents et ça, il faut l'accepter. Mais j'ai aussi plein de confrères chefs d'entreprise qui ont une dimension humaine et qui considèrent qu'on peut servir à quelque chose, pas simplement à faire du pognon. Donc ça, je vous le dis très, très clairement. Et qui, aujourd'hui, considèrent que payer des impôts à l'État pour qu'il y ait des routes, pour qu'il y ait de l'éclairage public, pour que nos enfants, en fait, aillent à l'école, pour qu'on ait un système de santé, c'est peut-être désagréable de payer des impôts. On en paye peut-être un peu trop en France. Ça, c'est un débat. Ça, je pense qu'on pourra discuter. Après, c'est savoir jusqu'où on peut en payer. C'est un vrai débat, ça. Peut-être qu'on en paye trop, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, payer des impôts, oui, il faut en payer. Donc oui, on a besoin de réglementation. Et si on laisse ça uniquement au marché, pour moi, je pense que c'est une catastrophe. Et tout à l'heure, on opposait la RFA à la RDA. Alors, il est vrai que quand la RDA est tombée, on a vu l'Allemagne se réunir, qui était une bonne chose, et que le système... Pardon ? Ça a été dur. C'était effectivement très, 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 très compliqué. Effectivement, ils ont énormément souffert. C'était très, très dur des deux côtés, en réalité. Des deux côtés. Ça n'a pas du tout été idyllique. Aujourd'hui, je pense que l'Allemagne a sorti quelque chose de positif de tout ça, mais c'était extrêmement... C'était très, très compliqué, en réalité.
Il y a encore les blessures qui restent.
Tout à fait. Je pense que la RDA, en fait, quoi qu'on en dise, garde quand même une histoire de son passé qui n'était pas que négatif, mais tout n'était... Aujourd'hui, on ne peut pas, en fait... Le manichéisme, en fait, est quelque chose d'extrêmement négatif. Et je pense également, on ne peut pas chasser un extrême par un autre extrême. C'est ce qu'on appelle le totalitarisme, en fait. Et c'est vrai que lorsqu'on va dire, attention, un système est mauvais, et on le justifie en disant, il est tombé, et ça justifie, en fait, un autre système, si vous prenez, pour justifier un mauvais système, un autre système qui est aussi extrême, finalement, c'est le système des balanciers. Et la situation la plus compliquée, c'est de trouver l'équilibre. Et l'équilibre, ce n'est pas vendeur. Regardez aujourd'hui la politique. Qui est-ce qu'on entend le mieux ? C'est celui qui crie le plus fort, qui a les arguments les plus simples à entendre. Celui qui parle au milieu, qui essaye d'être équilibré, ce n'est pas forcément celui pour qui on va voter. C'est malheureux et ça peut susciter effectivement un débat. Alors... Je recentre un tout petit peu, mais enfin après, on va laisser un petit peu le... Merci. Voilà, donc alors par rapport à moi je suis la voix du chef d'entreprise, alors peut-être un peu dissonante par rapport au profil du chef d'entreprise, hein, mais après tout c'est le jeu. Hein. Je pense réellement que l'entreprise, quand même, on a une vocation à gagner de l'argent et à développer quelque chose. On est là aussi hein, pour voilà, on n'est pas dans un monde des bisounours. Hein, je crois qu'un chef d'entreprise qui dit non, je m'en fiche de gagner de l'argent, j'ai pas besoin d'être rentable. À mon avis, celui qui vous dit ça, il n'est pas honnête, en fait. Un chef d'entreprise cherche la rentabilité, cherche à gagner de l'argent, quand même, hein, quoi qu'il en soit. Mais comme encore une fois, on peut le faire intelligemment. Et le chef d'entreprise, et c'est là où je rejoins quand même M. Falk. Je ne suis pas d'accord en tout, mais enfin, il y a du vrai aussi dans ce que j'entends. Hein. Le chef d'entreprise, en fait, a aussi un rôle de développement. Il a quand même un rôle de développement, un rôle moteur. Et c'est vrai qu'un chef d'entreprise qui a de l'énergie, qui se lève le matin, qui a de l'envie, ça c'est une force. Il faut lui donner de l'envie. Il faut l'aider. Il faut aussi l'aider. Et il faut que les réglementations soient des réglementations qui le portent et qui ne le freinent pas. Et que ça peut se faire aussi au niveau local. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément d'aller chercher des réglementations extrêmement loin. En local et en développement local, c'est nécessaire. Voilà.
Est-ce que vous pourriez dire deux mots peut-être aussi sur le rôle citoyen, entre guillemets, du chef d'entreprise par rapport au monde de la culture, au monde social, par rapport aussi à un dispositif comme Entreprendre pour apprendre, je pense que vous le connaissez, qui consiste à permettre à des jeunes de s'initier à la création d'entreprise. Est-ce que vous pourriez un peu développer là-dessus?
Oui, alors oui, je vous remercie de me donner cette occasion. Alors j'étais aussi parrain d'une micro-entreprise il y a de ça 2 ans. Je pense, en fait, le chef d'entreprise, en fait, vit dans un monde concret. Enfin, je le dis à l'instant, on n'est pas du tout dans un monde de bisounours. Hein, j'aime bien le dire parce que le monde peut être dur quand même. Le monde est dur, tout simplement, en fait. Le rôle du chef d'entreprise aussi, il est là pour enseigner à ceux qui ne connaissent pas encore comment ça va se passer. C'est vrai pour le climat. Pourquoi on en est aujourd'hui? Le climat, ce qui nous arrive, et moi je ne suis pas du tout climato-sceptique, je suis certain qu'aujourd'hui on va vers la catastrophe. On peut limiter la catastrophe, mais on y va quand même. Et aujourd'hui, le monde ne fait pas de cadeaux, que ce soit la nature ou que ce soit les autres humains. Eh bien, ça, le chef d'entreprise aujourd'hui a un rôle pour prévenir les jeunes, mais pour prendre surtout de la hauteur et du recul. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez le monde dans lequel on fonctionne, on vit dans l'immédiateté. Pour nous, les grands BFM, pour les jeunes, les jeux vidéo, c'est tout de suite des informations immédiates. Tout de suite, on n'a pas le temps de réfléchir. Une information, un stimuli, en fait, en chasse un autre. On ne réfléchit pas, on ne prend pas de recul. Et je pense que lorsqu'on pilote une entreprise, si vous ne prenez pas du recul, si vous n'essayez pas d'analyser ou de savoir où vous allez, quelle est la perspective, c'est fichu, vous allez vous casser la figure. Et je crois que par rapport au rôle que nous, on peut avoir par rapport aux jeunes qui arrivent, c'est de leur dire, lève la tête du guidon, lève la tête de ton écran, de ton Facebook, de ton réseau social, parce qu'on en est là, en fait. Hein. Essaye de prendre un peu de hauteur par rapport à l'information. Au lieu de la prendre et de t'arrêter simplement à l'image, simplement à l'information, essaye de la digérer, de l'interpréter. Éventuellement, essaye de regarder si tu peux avoir plusieurs sources, mets-la en comparaison, en perspective, et là, tu arriveras peut-être à mieux appréhender le monde dans lequel tu vis. Parce que l'entreprise, si demain tu rentres dans l'entreprise en tant que chef d'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, mais également en tant que salarié, parce que le salarié, il a besoin aussi de connaître ça, ou même en tant que fonctionnaire, parce qu'aujourd'hui, les fonctionnaires, j'ai entendu tout à l'heure, on en a besoin, les fonctionnaires. Qui est-ce qui est dans les rues actuellement en train d'assurer la sécurité de tout le monde? L'armée, ce sont les fonctionnaires. Si vous demandez à ces gens-là de ne plus travailler, vous croyez vraiment qu'on sera en sécurité? Voilà, donc c'est juste, enfin je ferme ma parenthèse en fait là. Là, je peux vous dire une chose, c'est que nous, on a un rôle pour dire aux gens, prenez conscience du monde dans lequel on vit. Il n'est pas facile, mais prenez de la hauteur, réfléchissez.
Merci. Est-ce qu'il y a... Sur les deux interventions précédentes, puisque j'ai oublié tout à l'heure pour Marianne, mais s'il y a des questions précises, on les prend. Sinon, comme pour tout à l'heure, on laisse le débat ouvert entre tous les intervenants et avec vous. S'il n'y a pas de questions, donc je vais proposer à Madame Burs de nous rejoindre. Et encore.
Il y a
Il y avait une question. Pardon.
Pas une question, peut-être juste une remarque. C'est vrai qu'on nous, on parle beaucoup de la COP21 en ce moment et de son déroulement. Et on essaye de faire une organisation supranationale pour des problèmes globaux. Et on a peut-être parfois un peu de mal à savoir comment on peut y répondre et comment on peut problématiser les choses. Et du coup, partir de l'entreprise ou d'une expérience des élus, ça peut permettre de recentrer le problème sur le territoire. Et je pense que c'est un bon moment pour le faire. Voilà, merci.
Bien. Madame Wurtz, donc on va voyager un peu avec vous. Parce que ça faisait déjà quelques moments que je voulais qu'ABM vienne témoigner de sa démarche. Vous allez nous présenter. Mettez-vous là. Voilà. Et donc, je ne sais pas si quelqu'un connaît ABM, Aventure du bout du monde. Donc, voilà, ça va être l'occasion. C'est un peu ce que j'appelais tout à l'heure le croisement des réseaux. Eh bien, je vous laisse vous présenter et présenter ABM, ce que vous faites.
D'accord, merci. Ben, merci pour l'invitation. C'est vrai que vous m'avez invité plusieurs fois et puis à chaque fois, ben, voilà, donc aujourd'hui. Voilà, puis merci infiniment. Donc ABM, c'est Aventure du bout du monde. C'est une association nationale qui existe depuis 27 ans et qui met en relation des voyageurs pour que les voyageurs puissent partager leur expérience. Donc je pense qu'au départ, il n'y avait pas l'informatique, donc c'était dans des boîtes à Paris. On mettait tous les gens qu'on avait rencontrés, les guides qu'on avait pu avoir. Là, je reste vraiment sur un domaine de voyage basique, voyage. Mais on n'est pas une agence de voyage. Chacun prépare son voyage, mais en même temps, si quelqu'un veut partir quelque part, on va lui donner les billes, on va l'aider à construire son projet. Et je pense qu'au fil des années, les choses ont quand même beaucoup évolué. Et quand nous avons des manifestations, aussi bien à Paris, puisque c'est là où est le siège national, et dans toute la France, puisqu'on est 12 antennes actuellement et 8 correspondants, dont un à Liège, on fait aussi des soirées projections, on fait aussi des festivals autour du voyage. Mais je pense que de plus en plus, on met l'accent sur accueillir des jeunes qui ont fait des voyages, qui sont orientés vers l'écologie, qui sont orientés aussi vers comment est le monde aujourd'hui, comment il fonctionne, ce qui leur semble problématique. Donc dernièrement, on a eu une projection, et c'était tout à l'heure, on parlait du gaspillage alimentaire. Et on a un jeune de Tours qui est venu, qui nous a présenté son voyage de Paris à Varsovie pour démontrer le gaspillage alimentaire. Et il s'était donné comme objectif de partir sans acheter une seule fois de l'alimentation et en utilisant que ce qu'on retrouvait dans les poubelles des restaurants, des supermarchés, etc., etc. En même temps, il nous a montré des initiatives dans certains pays. Et il y en a un qui je trouve assez intéressant parce que ça met de la confiance dans les uns et les autres, à savoir, ben, quand vous partez de chez vous pendant plusieurs jours, il vous reste des choses dans le frigidaire. Bon, ben, ça va être mis à la poubelle, hein, parce que quand vous allez rentrer, ça sera fichu. Et là, dans leur ville, il y a une petite salle, il y a un frigidaire. Donc vous venez déposer ce qui vous reste. Et vous, quand vous rentrez de voyage, vous rentrez de week-end ou vous rentrez d'une semaine de travail, vous pouvez passer par là et puis regarder ce qu'il y a dans le frigidaire que d'autres ont déposé. Donc il y a une très belle confiance. On n'est plus dans l'ordre aussi de toutes les normes d'hygiène qui deviennent aussi excessive. Donc notre association, même si on est des voyageurs, comme je dis, plutôt sac à dos, hein, que voyage organisé, on a aussi ce regard-là. Il y en a d'autres qui sont partis, d'autres jeunes, faire de l'éco-voyage. Et l'association a édité un guide éco-volontariat. Donc c'est l'expérience d'une jeune qui est partie un an. Donc ce livre permet à d'autres de dire, bon ben voilà, là-dedans je peux trouver des adresses, on peut la contacter, ça évidemment. Tous, on peut se contacter les uns les autres parce qu'on a un projet d'aller dans tel pays pour donner un coup de main à un moment donné. Bon, il y a le couchsurfing, mais il y a aussi tous les autres modes où on va donner de son temps. Moi, j'ai des amis anglais là, en ce moment en Vendée. C'est un monsieur qui a 57 ans, qui voyage à vélo, qui est parti, qui vient d'Afrique du Sud. Et en ce moment, il est pour 3 mois chez un couple d'anglais. pour l'aider dans des travaux. Il est hébergé, il est nourri, il y a quelque chose de très convivial. Et nous, on lui fait découvrir en même temps nos traditions quand on peut passer des moments ensemble. Donc il y a de l'échange au niveau humanité. Et il y a aussi en même temps la prise de conscience qu'on doit aussi s'entraider et on doit aussi donner les moyens à d'autres jeunes et donner la place aux jeunes de présenter ce qu'ils ont fait. Nous, on est tellement heureux dans nos associations qui vieillissent, d'accueillir des jeunes, mettre en valeur ce que certains sont capables de faire. On a beaucoup d'exemples. Il y en a un autre qui est parti, un couple, ils sont partis à la rencontre des paysans de l'Europe de l'Est. Et ils ont fait un documentaire filmé là, qu'on va projeter au mois d'avril. Sur ces rencontres de ces paysans, jeunes paysans, paysans à la retraite, et qui se tournent vers le bio, qui se tournent vers les AMAP. Moi, j'aurais jamais pensé que du côté de la Croatie, aujourd'hui, on pense AMAP également, comme chez nous. Donc, c'est des beaux témoignages. Et je pense que nous, notre association, a aussi le plaisir de transmettre ces témoignages sur ce qui se passe dans le monde, d'en faire attention. L'autre projection, c'était également la déforestation en Indonésie pour l'huile de palme. Alors, j'avais vu ce film-là au mois d'avril à Paris. Donc, j'aurais demandé de venir projeter leur film. Et... c'est vrai que depuis que j'ai vu le film à Paris, même si j'avais déjà conscience pour l'huile de palme, je peux vous dire que dans les magasins, même dans les magasins bio, je regarde, je dis, ah non, l'huile de palme, allez hop. Parce que ça fait de tels dégâts, même si à certains moments, l'huile de palme peut être utile pour certaines choses, mais au détriment de quoi ? Enfin, je veux dire, c'est comme d'autres cultures. Donc voilà, notre association, ce sont des voyageurs. On a envie de découvrir le monde, mais en respectant les pays qui sont traversés, les traditions, et en étant à l'écoute de ce que ces gens qui parfois vivent dans des conditions très difficiles, hein, des écoles à 4000 mètres d'altitude. Quand vous rencontrez les enseignants qui travaillent, la cour de récréation, c'est un tas de cailloux. Et vous les voyez en disant, ces enfants-là, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'on leur donne les moyens d'être éduqués pour qu'ils aillent plus loin plus tard. Bon, mais voilà, c'est des leçons. On a besoin de transmettre ce que nous, on a eu dans les pays qu'on a traversés et montrer, parce que nous, nos élèves ici ont la chance, ont plus de chance que d'autres. Ça dépend comment on se situe, mais de donner la chance à tout le monde, quoi, et de transmettre. Voilà, donc c'est... Voilà, notre association, elle est aussi simple que ça, mais avec une volonté de transmettre.
Est-ce que vous pourriez préciser quand même votre modalité de fonctionnement ? C'est-à-dire, vous avez une réunion régionale ? Est-ce qu'il y a des délégués départementaux ? Vous avez une revue ? Enfin, voilà, quelques... Ouais. Voilà. Où peut-on vous joindre ?
Ouais. Voilà, donc là, en fait, voilà, il y a l'association nationale qui s'est créée par un groupe de copains donc, il y a 27 ans. Et puis, donc, il y a les antennes. Alors, moi, nous, on l'a appelé Poitou-Charentes. Pourquoi ? Parce que quand je suis arrivée de Normandie, je suis revenue dans ma région d'origine, et là, il n'y avait rien. Il y avait vraiment un trou. Donc, comme j'avais l'habitude d'ABM, j'ai dit, je vais être correspondante. Puis, on a créé l'antenne. Et nous, on regroupe des gens de 5 départements. En fait, on a des adhérents sur la Charente, Charente-Maritime, Sud-Vendée, la Vienne et les Deux-Sèvres. Donc, on s'est dit, on ne peut pas donner un nom comme on a ABM Nantes, on a ABN Rennes, qui sont des grosses villes. Donc, nous, on s'est dit Poitou-Charente, pour que ce soit vraiment une image des gens que ça regroupait. Et donc, on est tous complètement autonomes, on est des associations autonomes, tout en ayant la même philosophie. Donc, chacun peut organiser selon ses moyens. Nous, on est une petite association. Donc, on fait avec les moyens qu'on a. On fait soirée projection, on fait festival. Il y en a d'autres qui ont d'autres moyens, qui vont faire des projections plus souvent. Mais ce sont que des bénévoles. Voilà. On a un salarié et demi sur Paris pour à peu près 3400 adhérents. Et il y a une revue qui est éditée tous les deux mois. Donc là, il y a un comité de lecture et les articles ne sont écrits que par les adhérents. Donc ils sont envoyés à Paris, ils sont sélectionnés, ils sont lus, ils sont retravaillés également. Et il y a une partie édition. Ce qui permet de donner le lien. Et la revue, j'en ai apporté là 2-3 exemplaires, sont de très très belle qualité. Vraiment très très belle qualité. Ce sont des conseils, ce sont des récits de voyage, tout ce qu'on peut trouver, des adresses, des échanges. Je crois que c'est... C'est vrai qu'on est vraiment très ouvert. Et notre festival, quand on le fait, la personnalité de notre festival, c'est qu'on veut vraiment que ce soit un moment de rencontre, d'échange. Donc on a une soirée projection le samedi, l'entrée est payante, mais le dimanche où il y a tous les stands des voyageurs et d'associations qui œuvrent aussi bien sur le plan local ou le lien entre le local et l'étranger. Ils ont leur place également à notre festival. Et donc là, l'entrée est libre parce que, comme on dit, on est une association. On veut que tout le monde puisse, même si c'est qu'une demi-heure, pousser la porte, y venir et avoir vraiment un rôle d'association.
Alors, votre festival, c'est quand et c'est où?
Alors, le festival, il sera donc à Magné, à côté de Niort. C'est aux portes du Marais Poitevin. Ça sera le 2 et 3 avril 2016. Voilà. Et donc là, on aura à la programmation un monsieur qui est parti avec un non-voyant, qui lui s'est retrouvé aveugle à 15-16 ans. Il ne le sait même pas lui-même, tellement il a refusé d'accepter qu'il était devenu aveugle. Et à partir de l'âge de 18 ans, il est parti voyager dans le monde. Et là, il est parti accompagné d'un voyant. Et c'est un récit de tout ce qu'il a vécu, un échange entre eux. Et à un moment donné, le non-voyant fait traverser une ville, une rue au Maroc, avec les yeux bandés pour le voyant. Et il l'a guidé comme si lui-même était voyant. Enfin, je veux dire, il y a des exemples où on pourra en tirer aussi beaucoup de leçons par rapport à nos petits bobos, si on peut dire ça comme ça. Je parle très simplement, hein, mais je pense que ça fait partie de la vie aussi. Et quand on a un exemple comme ça, ça donne aussi de l'espoir d'aller plus loin dans ce qu'on a envie de mener dans nos vies parfois. On se met des barrières pour des petites choses. Et quand on voit quelqu'un d'aveugle qui s'est pris par la main depuis l'âge de 18 ans et qui a voyagé, c'était dans les années, je pense, 70-80, bon, chapeau. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui seront représentées, entre autres.
Parfait. Est-ce qu'il y a des demandes de précision maintenant que vous connaissez mieux ABM, si vous ne connaissiez pas avant?
Ah ben, là, j'ai pris quelques petits documents pour l'adhésion où il y a nos coordonnées comme petite carte de visite, je peux vous en donner. Donc on nous contacte par internet ou par téléphone. Donc en général, c'est moi qui m'occupe de la partie communication. Donc on m'a directement. Voilà, donc je pourrais vous en donner.
Jackie, je voudrais. Allez-y, juste dire un mot. Très intéressant, parfait. Simplement, je vous signale que vous êtes dans la totale illégalité, dans la mesure où vous organisez, disons, la récupération de documents, d'aliments, et que si quelqu'un s'empoisonne, qui va être responsable? Attendez. Deuxième point. J'ai apprécié la personne qui recevait quelqu'un, qui lui rendait service, etc. Je vous signale que l'inspection du travail n'accepte pas ce genre de choses. Il faut absolument qu'il y ait un contrat de travail. Vous n'avez pas le droit.
Non. C'est dans le cadre d'une association. Enfin, c'est tout à fait, c'est pas fait comme ça n'importe comment. Il y a tout un système qui est complètement officiel par rapport à ça. Et la récupération de l'alimentation, c'est pas nous qui allons l'utiliser pour quand nous on fait nos repas. Alors voilà, quand on fait les repas au moment du festival, on achète du local. Il y a une association à Magné d'insertion professionnelle pour du maraîchage. Et là, pour notre dernière soirée, on leur a acheté tous les légumes. Voilà, pour l'impression de nos flyers, il y a un jeune qui s'est installé à Magné. On lui commande nos flyers à lui pour le mettre en valeur, et on trouve que c'est normal. Là, quand je vous ai parlé de l'alimentation de ce jeune qui est parti de Paris à Varsovie, ça ne concernait que lui. C'est lui qui est parti avec sa bicyclette et qui s'est nourri pour lui-même. Mais jamais, jamais, nous, on irait le faire.
C'est pas ça que je dis. Ouais. C'est le problème de la réunion. Les gens partent et laissent leurs aliments à la disposition du public, si j'ai bien compris.
Ah non, ça c'est dans une association, je sais plus, alors, parce que comme il a traversé de Paris à Varsovie, donc là c'est dans un des pays qu'il a traversé, il y a un lieu dans cette ville qui est mis à la disposition des gens de la ville, donc c'est complètement officiel, c'est dans un autre pays que le nôtre, où des choses comme ça sont autorisé. Nous, on peut pas, on n'a rien à dire par rapport à ça, mais il y a ce frigidaire où les gens peuvent déposer plutôt que de jeter. Voilà. Et ça fonctionne dans la confiance. C'est dans un pays... Alors franchement, je me souviens plus...
En France, on ne pourrait pas le faire.
Ben, peut-être qu'en France, on ne pourrait pas le faire, absolument. Là, on est en Allemagne ou on est en Autriche, je ne me souviens
dans
plus.
Dans des pays libres. Parce qu'il y a déjà une multiplicité de réglementations qui font que ce n'est pas possible. Vous n'avez pas le droit. C'est comme pour l'emploi de main-d'œuvre illégale. C'est tout à fait.
C'est pas de l'emploi illégal là. C'est une association. Ça fait le work, je sais plus.
Il y a le woofing, ce qu'on appelle le woofing.
Le woofing, c'est complètement. Non, il n'est pas rémunéré. Il est, c'est un échange de services. Il est logé et nourri. Basta, rien d'autre. Oui.
Le mouvement woofing, qui est un mouvement international
en français, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça n'existe pas en français. Le mot, c'est un mot américain. Alors, si voilà. Donc, le woofing, c'est un mouvement donc international de bénévoles ouvriers agricoles dans des fermes biologiques au départ. Il y en a dans le monde entier. Il y en a beaucoup effectivement maintenant en Europe de l'Est. Le principe, c'est qu'effectivement, vous allez aider des gens dans des fermes, et je vous dis, c'est de l'Australie au Costa Rica en passant par la Chine, il y en a dans le monde entier, il y en a aussi en France. Et dans la plupart de ces fermes, le contrat, c'est vous travaillez 5 heures par jour, vous êtes nourri, logé, et il y a certaines fermes qui en plus vous donnent une gratification de 100 à 200 euros. Ceci est parfaitement légal, ça existe depuis des années, c'est un mouvement international qui est ultra contrôlé et dont je crois que personne ne se plaint.
Dans ce même ordre d'idée, je citerai les Greeters, mais vous les connaissez peut-être certainement, que nous avons déjà fait venir aussi, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, ce sont des gens bénévoles qui font visiter des villes ou des territoires à un certain nombre de touristes.
Voilà, et il y a aussi d'autres jeunes qui ont eu comme projet de partir 2 mois l'été, c'était aussi en Europe, tout simplement, pas forcément, nous on s'appelle aventure du bout du monde, mais je veux dire, le voyage, il est aussi à notre porte, hein. Je veux dire, on essaie aussi, au cours de nos festivals, quand on peut, présenter des voyages qui sont parfois juste en France, quelqu'un qui est parti à pied de tel endroit, à la rencontre des gens, à la rencontre... Bon, c'est aussi un voyage. Hein. Là, on le dénigre pas du tout. Et il y en a des jeunes qui sont partis à Solex, mais leur projet, c'était en même temps, ben, quand ils pouvaient, en cours de route, si quelqu'un avait besoin d'un coup de main... Ben, ça leur permettait de découvrir une culture d'un des pays où ils étaient. Et ils donnaient du temps. Et on voit dans le film, il y a un vieux monsieur qui était bien en peine de défaire son mur parce qu'il avait des travaux à faire chez lui. Ils se sont dit, ben, écoutez, nous, on est 4 jeunes, là, on est costauds. Ah ben, on vous aide. Voilà, ben, le monsieur, il est revenu avec quoi? Avec des tomates, des fruits. Bon, c'était tout. L'échange, il était aussi simple que ça. Mais ces jeunes, ils ont donné peut-être une demi-journée de leur temps à ce monsieur. Comme on faisait autrefois, quoi, je veux dire.
Et s'il arrive un accident, qu'est-ce qui se passe? Qui est responsable? Non, mais... parce que vous êtes employeur à ce moment-là, que vous voyez ou pas.
Non, là, c'est un coup de main.
Non.
Alors, vous savez, le débat, il existe depuis des années. Il a commencé à l'époque des services d'échange locaux, les SEL. Où effectivement, tous les ans, on nous faisait flipper en nous disant, vous allez voir ce que vous allez voir, l'URSSAF n'est pas d'accord, le gouvernement n'est pas content, Bercy va vous tomber dessus, etc. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est que les mouvements issus des SEL, comme ce que vous racontez, comme le woofing, etc., comme le couchsurfing, comme les échanges, ça s'est plutôt généralisé. La question, c'est qu'on a essayé à un moment donné de mettre un prix sur tout. À Paris, par exemple, moi, j'ai une copine qui n'a pas ses parents et donc qui loue des grands-parents pour l'anniversaire de ses enfants. Est-ce qu'à partir du moment où il existe une agence qui loue des grands-parents pour les anniversaires, est-ce à dire que vous, par exemple, si vous êtes grand-père, eh bien vous allez devoir reverser de l'argent à l'URSSAF parce que vous êtes grand-père alors que d'autres gens gagnent leur vie grâce au fait d'être grand-père. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a été quand même aussi beaucoup dans le fantasme de c'est horrible, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Moi, ce que j'observe, c'est que ça se développe et j'en suis ravie. Ce que j'observe aussi, c'est qu'on a une transformation de l'économie avec l'ubérisation qui pose des problèmes différents. Que Blablacar, ça a été un outil, un levier écologique, pour le coup, quand même très intéressant. En même temps, ça a complètement planté c'est en train de planter les transports publics. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais enfin, bref, sur le voilà, sur le bilan global. Je crois qu'on ne peut pas tirer de conclusions radicales, à mon avis, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et c'est vrai qu'on est dans une société en mouvement, avec un mouvement plutôt rapide.
Alors, moi, je voudrais rajouter aussi, c'est sur le plan humain. Parce que, je veux dire, quand il se passe des choses où quatre jeunes, ils vont donner de leur temps à ce vieux monsieur qu'ils ont rencontré, qui avait l'air d'être peiné, ben, je trouve qu'on est en train de se plaindre dans notre société où l'humanité fait défaut. Alors, moi, je suis toujours heureuse de voir qu'il y a de la relation, il y a un lien social qui n'est pas derrière un écran. Qui est direct, quoi. Je veux dire, c'est nécessaire. Donc toutes ces petites choses-là, il faut les préserver.
On va peut-être rester là pour l'instant et on continuera le débat tout à l'heure, parce que je pense aussi aux monnaies locales, je pense à un certain nombre d'initiatives, hein, et les monnaies locales, ça fleurit. Hein. Et par ailleurs, on a eu aussi le témoignage d'un maire d'une petite commune des Voivres dans les Vosges, qui nous a dit les difficultés qu'il a eues avec la Chambre régionale des comptes, et finalement, il a transgressé, c'est la Chambre régionale qui a cédé sur un certain nombre de choses. Donc on voit bien le développement local sur un certain nombre de choses, voilà, il y a des phénomènes de transgression après... qu'il faut assumer, évidemment, pour en parler. Mais c'est un autre débat. Peut-être s'il n'y a pas d'autres... Non, vous restez là, parce qu'on va... Je vais mettre une cinquième chaise, c'est bon. Si vous vous poussez un petit peu les uns et les autres, ça ira. Non, sans trop vous pousser. Et je vais appeler Stéphane Mahonnet à venir nous rejoindre, qui, lui, est un autre réseau, si j'ose dire. Mais je lui ai laissé le soin de se présenter, et de présenter Créa France.
Tout d'abord, merci pour tous ces témoignages très intéressants et très complémentaires les uns des autres. Je représente ici Créa France, qui est une association qui est née il y a 12 ans et qui réunit des professionnels de la créativité. Alors la créativité, c'est quoi ? Pour moi, la créativité, c'est comme le rire. C'est quelque chose de profondément humain. C'est ce qui fait qu'on est capable d'inventer des choses. Que face à un problème, on est capable de ne pas répéter toujours les mêmes réponses comportementales. Je regarderai mon planning. Je décharge mon cerveau d'un certain nombre de choses. La créativité, c'est quelque chose de profondément humain, de profondément naturel. Mais alors, comment on fait quand elle ne vient pas, l'inspiration ? Moi, il y a 3 ans, je ne savais pas qu'il existait des méthodes de créativité. J'en avais absolument aucune idée. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 ans, ça faisait plus de 20 ans que je gagnais ma vie comme artiste de scène. Et donc, j'écris des chansons, des contes, je joue de la musique, etc. Et comment j'ai fait ? Un jour, je suis dans mon lit, ou je suis devant ma télé, ou je suis dans ma voiture, ou n'importe quoi, et crac, j'ai une idée. Et comme je suis né dans une famille de musiciens, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement naturel d'avoir une idée musicale ou d'un spectacle ou quelque chose. Donc, je prends des notes, ou j'enregistre, ou je fais ce qu'il faut faire pour capter l'idée. Ok, super. Mais quand j'ai pas d'idée, comment je fais ? Et alors, bon, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais... Aujourd'hui, je ne suis plus intermittent du spectacle. Aujourd'hui, je suis entrepreneur et j'accompagne des organisations, des associations, des particuliers à la résolution de problèmes sur la thématique de la relation. Donc, je suis là aussi pour vous parler d'écologie relationnelle. C'est-à-dire que pour moi, le changement climatique, je ne suis pas climato-sceptique, mais je ne suis pas non plus climato-alarmé. Par contre, là où je suis peiné, attristé, c'est la qualité des relations que je constate dans mon environnement humain depuis que je suis gamin, depuis l'école, dans toutes les boîtes où j'ai bossé, dans toutes les assos où j'ai bossé, dans les assos que j'ai montées, dans les compagnies que j'ai montées, dans les groupes dans lesquels j'ai travaillé et je travaille encore. Je travaille encore aujourd'hui depuis 8 ans dans un groupe, une fanfare de rue, où je vois bien que le climat relationnel, il fonctionne, mais il n'est pas du tout optimal. À côté de ça, je fais partie d'un cercle de facilitateurs que j'ai rejoint en début d'année, qui est extraordinaire, qui réunit des coachs, des médiateurs, des travailleurs sociaux, des animateurs de réseau. et dans lesquels il y a un principe de parole qui est fondé sur la communication non violente. Je ne sais pas si tout le monde est familier de cette approche. C'était créé par Marshall Rosenberg aux États-Unis dans les années 70, je crois bien. C'est quelqu'un qui a... je crois bien qu'il devait être ethnologue et il travaillait en Afrique. Et il était dans une région vraiment en fond de brousse où il y avait deux villages qui se faisaient la guerre historiquement. C'est-à-dire, c'était un peu le principe de la vendetta corse. Hein. C'est-à-dire que personne ne savait pourquoi on était en guerre, mais alors on était en guerre. Et alors, ils avaient un principe de guerre qui était relativement sain, parce que comme ça durait depuis des générations, il ne fallait pas qu'ils s'entretuent, sinon, ça pouvait pas, sinon ils étaient obligés d'arrêter, donc ça les aurait embêtés, qui s'arrêtaient au premier sang versé. Mais alors, tout était la faute de l'autre village, évidemment. Si on est en guerre, bah oui, c'est parce qu'eux, ils ont ceci, cela, par rapport à la vache de Trucmuche et le champ de Bidule Chouette. Et alors, Rosenberg est allé interviewer tour à tour les deux chefs de village, et il a fait des allées-venues comme ça pendant plusieurs mois, pour bien comprendre le point de vue de l'un et le point de vue de l'autre, et jusqu'à arriver à faire une médiation entre les deux, après leur avoir enseigné à chacun, indépendamment, des façons de communiquer qui sont respectueuses de soi et de l'autre. Et au final, chacun a pu entendre le point de vue de l'autre, en reconnaître les aspects pertinents, la validité, et se sentir compris. Et ils sont passés d'une logique de guerre à une logique de coopération.
Est-ce que ça fait la destruction des deux villages, finalement ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, ça leur a permis d'aller un pas en avant. C'est-à-dire qu'au lieu de rester dans une boucle relationnelle plutôt destructrice, donc qui était un cercle vicieux, en fin de compte, puisque tout le monde y perdait, eh bien, ils ont renversé la vapeur et ils ont créé un cercle vertueux dans lequel tout le monde y gagnait. Et pour moi, l'enjeu, tout ce qui tourne autour de... les raisons qui font qu'on a la COP21, les raisons qui font qu'on a ce genre de dispositif aujourd'hui, ce genre de débat, etc., ces raisons-là, elles font partie d'un cercle vicieux dans lequel les plus riches, pour schématiser vraiment à l'extrême, pour caricaturer à l'extrême, les plus riches exploitent les plus pauvres. On est dans une logique d'un cercle vicieux où on voit bien que le climat change ou pas, de toute façon, l'épuisement des ressources, il est là. L'extinction de la biodiversité, elle est là. On ne peut que le constater. On peut mesurer le nombre d'espèces qui disparaissent, combien de nouvelles espèces sont créées en contrepartie. Il y en a moins. Donc, dans tous les cas, on est dans un constat, dans un état de fait qui est celui-là. Alors, il nous appartient de trouver les leviers pour renverser la vapeur. Et de là, comment fait-on pour forcer la créativité quand on n'a pas l'inspiration ? Alors, je vais revenir à mon histoire perso pour arriver à Créa France. Dans mon histoire perso, quand j'ai fondé une famille, j'étais musicien et je tournais internationalement. Et je me suis trouvé devant un gros dilemme. Ma carrière venait de commencer à décoller. J'étais en train de commencer à réaliser mon grand rêve d'adolescent. Et là, tout d'un coup, j'ai deux bébés à la maison. Et je me gratte la tête à chaque fois que je pars en tournée et que je dors dans les hôtels. Et je me dis, mais je ne vais pas les voir grandir, ces enfants. Et ça va être foutu. Donc j'ai le choix. Soit je fais une carrière, soit je fais une famille. Donc j'ai choisi la famille. Parce que je me suis dit, à un moment, ils vont être élevés, les enfants. Et puis si j'ai envie de faire d'autres choses, je pourrais. Donc j'ai fait ça et j'ai dû me développer en local. Et c'est très difficile de gagner sa vie en tant que musicien, déjà avec un grand rayon d'action, mais alors avec un petit, c'est encore plus dur. Et j'ai beaucoup développé la pédagogie. Donc j'ai animé des tas d'ateliers pour des amateurs, j'ai coaché des groupes amateurs, j'ai fait plein de choses comme ça. Et ça m'a amené petit à petit à la relation d'aide. Et j'ai fini au bout d'un moment par me dire, bon, allez, va te former sérieusement à la relation d'aide, parce que des fois, tu as des gens devant toi quand même, ils ont sérieusement... Des difficultés dans leur construction psycho-émotionnelle, dans leur équilibre personnel. C'est des gens qui sont en détresse, en souffrance. Et moi, je n'ai pas de formation, je ne sais pas gérer ces gens-là. Donc je suis allé me former, j'ai passé 3 ans à me former. Et aujourd'hui, finalement, ça me plaît tellement ce genre de choses que c'est devenu mon activité principale. Et dans le cours de ma formation, j'ai eu à écrire un mémoire universitaire et je cherchais quel pouvait bien être mon sujet. Quelque chose qui soit en lien avec mon histoire, avec qui je suis, avec d'où je viens, avec le spectacle. Et j'ai découvert les approches créatives structurées. Alors c'est né dans la publicité, les approches créatives structurées. C'est né par l'auteur du fameux et très galvaudé brainstorming, qui s'appelait John Osborne. En 1942, il a rendu publique la méthode qu'il utilisait avec sa boîte de pub aux États-Unis. Donc vous voyez la mentalité américaine, efficacité, efficacité, efficacité. Il avait développé une méthode avec son équipe qui consistait à produire un maximum d'idées et ensuite, en fonction de la commande de son client, élaborer des critères qui permettent de filtrer ses idées pour sélectionner les plus pertinentes. Et pendant ce processus de filtrage, il y avait en même temps une hybridation des idées, c'est-à-dire que toutes les idées étaient gardées, même les plus délirantes, même les plus impossibles, même les plus grotesques, elles étaient toutes gardées parce qu'elles pouvaient toutes constituer un élément qui viendrait s'agglomérer à une autre idée, donc faire de l'hybridation. Comment une idée complètement débile peut se mettre au service d'une idée apparemment banale et que les deux ensemble vont constituer en fin de compte l'idée qui va marcher. Donc il a rendu publique sa méthode qui s'appelle le brainstorming et ensuite il s'est associé avec un universitaire, Sid Barnes, et ensemble ils ont commencé à construire ce qui est devenu aujourd'hui la référence mondiale, enfin la méthode la plus utilisée dans le monde, s'appelle le CPS, le Creative Problem Solving, et Sid Barnes a monté la première université de créativité à Buffalo dans l'état de New York. Et donc ça, c'est né aux États-Unis. Il y a eu en parallèle une exhortation de quelques universitaires qui tiraient des sonnettes d'alarme en disant « il faut absolument faire de la recherche fondamentale sur les processus créatifs, sur comment ça se passe dans le cerveau humain, dans l'environnement des humains entre eux, dans l'ambiance, pour que les idées puissent marcher, puissent naître et croître et grandir et nous permettre de trouver des solutions inédites à des problèmes inédits ». Et comme ça sont nés tout un tas d'associations, d'organisations, de publications, de recherches, etc. Et en France, ça a donné l'association Créa France, qui est née il y a 12 ans. Et quand j'ai fait mon mémoire, je me suis rapproché de Créa France. Et je leur ai dit, moi j'habite à Tours, je vois que vous avez des antennes en région, et je ne vois rien sur votre site en Touraine. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble ? Et donc, ils m'ont envoyé le numéro de Colette Chambon, qui est une dame extraordinaire que j'ai rencontrée, qui est à l'origine de Créa France, et qui habitait à Tours. Donc je lui ai envoyé un mail, elle m'a recontacté, et ensemble on a monté l'antenne Créa Centre, qui est donc une association indépendante affiliée à Créa France. Et alors, dans cette association, à Créa Centre, alors je vais vous parler de Créa Centre, parce que c'est cette association-là que je connais bien, notre vocation est de regrouper des profils les plus différents possibles. Alors pour l'instant, on a une infirmière, on a une graphiste, on a une médiatrice, nous sommes deux coachs. Nous avons Colette qui est consultante en management de la créativité. Tous ces gens-là font aussi de la formation professionnelle. On a des travailleurs sociaux, on a des formations en école d'infirmiers. Moi-même, je travaille en institut de travail social, en école d'infirmiers aussi. Voilà, donc on a des profils vraiment très différents parce que l'idée, c'est de dire plus on va mélanger les genres, les styles, les approches, les points de vue, et plus on va avoir du fertilisant pour nos idées. Alors, je vais m'arrêter là-dessus pour continuer dans un échange le plus constructif possible. Et avant ça, j'aimerais vous proposer juste un principe fondamental, un seul, je ne vous en donne qu'un, de créativité. Et tout à l'heure, on a eu un exemple assez pertinent, je trouve, que j'ai envie de reprendre justement. C'est quand vous étiez en train d'expliquer ce que fait votre association. Et que M. Falk vous a interrompu en disant « Ah oui, mais là, par rapport au cadre légal, etc. etc. » Et s'en est suivi un échange à plusieurs. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'on a eu typiquement ce qu'on appellerait en créa du « oui, mais ». C'est-à-dire « Oui, madame, ce que vous faites, c'est super, mais attention, et je déroule des arguments en fonction de ma vision du monde. » Et on fait tous ça. Ça fait partie de notre fonctionnement. Pourquoi ? Parce qu'à l'école, on apprend à fonctionner comme ça. Et ce qu'on voit dans les débats télévisés, etc., dans les films, ça fonctionne comme ça. Et on ne le sait pas, mais ça, c'est un créaticide. C'est un créaticide. Parce que quand on est dans cette approche-là, on écoute l'autre non pas pour l'entendre, mais on écoute l'autre dans l'intention de lui répondre. Et donc, on se prive d'accueillir quelque chose qui nous est étranger, et qui peut-être va nous bousculer un peu, parce que peut-être ça ne fait pas partie de notre cadre de référence, peut-être que ça va à l'encontre de mes croyances, de mes certitudes, de mes valeurs, peut-être. Mais si je ne le prends pas comme quelque chose qui pourrait m'enrichir, je me prive de la possibilité de m'enrichir. Alors, quand on est, si vous êtes, vous, dans vos activités professionnelles ou autres, en situation de trouver des idées, je vous invite à tester la chose suivante. Interdisez le « oui, mais » et remplacez-le par le « oui, et ». Oui, et alors, Madame Wurtz, par rapport au cadre légal, comment faites-vous? Voilà, c'est une proposition d'alternative. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Et pour info, vous pouvez trouver des infos sur Créa France en tapant Créa France dans Google. Et si vous êtes en région centre et que vous avez envie de vous rapprocher de notre antenne locale, vous pouvez taper Créa Centre en un mot. www.creacentre.fr et nous contacter, il y a tout ce qu'il faut sur le site. Merci Jackie.
Tu peux t'asseoir si tu veux. Assieds-toi. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être des remarques et peut-être dire un mot sur ce que vous faites, vous, par exemple?
Alors, ce que je fais, c'est un peu vaste. J'ai deux activités. Je me suis formée sur un penchant artistique au départ, en bijouterie, joaillerie classique. Maintenant, je continue cette pratique, mais sous une autre forme. J'ai enlevé les acides et je n'utilise plus de pierres taillées, diamants et tout ça. Je suis plus sur un esprit créatif. Et je ne vends pas très loin, en fait. Je crée plutôt une dynamique sur mon territoire parce que je trouve que j'habite autour de Châtellerault. J'habite entre Châtellerault et Richelieu. Et je trouve qu'il y a une très belle histoire mais dans cette région. Mais on reste sur les portes qui sont fermées. Et c'est dommage parce qu'il y aurait vraiment plein de choses à créer tout autour de Châtellerault. Donc moi, je participe à une dynamique de ce point de vue-là. Donc je me déplace avec mon établi de temps en temps pour des expos, pour faire des échanges avec d'autres, pour montrer le métier de la bijouterie. Et je fais aussi des ateliers à la demande. Voilà, donc ça c'est un premier penchant. Et un autre penchant, pourquoi je fais mercredi une conférence sur quel est le seul frein à mon bonheur, ça a été un chemin un petit peu plus différent. À un moment, je me suis demandé dans ma vie quel était l'essentiel. Donc c'est la question qu'on a à se poser actuellement sur toutes nos problématiques. Où est l'essentiel? Juste pour dire oui par rapport à l'essentiel, qu'il faut vraiment se poser des questions sur quel est l'essentiel, parce qu'on n'a jamais eu autant de suicides d'enfants de l'âge de 8 ans et on n'en parle jamais. Et ça, c'est grave. Un enfant de 8 ans, il est plein d'enthousiasme normalement, et s'il va jusqu'au suicide, c'est qu'il y a vraiment des questions à se poser. Voilà, donc ça c'était juste une aparté, ça met peut-être un coup de froid, mais je pense que des fois il faut aborder les choses comme ça, qu'on laisse sous les draps ou des choses. Donc, si je fais une conférence sur le bonheur, eh bien, en fait, c'est parce que j'accompagne maintenant des personnes sur tous les freins à leur bonheur. Mais c'est la première conférence que je fais sur le bonheur, c'est surprenant pourtant. J'accompagne les gens sur les freins au bonheur, mais on m'a demandé d'autres conférences. Donc, j'avais fait justement une conférence sur avoir un mental de gagnant. Et ça me faisait penser à ce que vous disiez justement, que dans le sens de ma conférence, c'était un thème accrocheur pour tout public. Mais derrière ça, il y avait plusieurs approches. Et tout simplement pour dire que le mental, effectivement, c'est une belle machine, c'est un bel outil, mais nos rêves, ils sont où aussi? Donc, en fait, tous, le principe, là, les conférences, c'est tout public. Ce que je fais dans tous les jours, je reçois tout type de personnes. C'est pour ça que dans 10 minutes, je vais partir. J'ai des gens qui font 1h30 de route pour me rencontrer parce qu'ils ont une problématique. Et tout ce qu'on n'exprime pas dans notre vie, il est imprimé sur notre corps physique. Le corps physique, c'est comme un tableau de bord d'une voiture, donc on peut tout trouver. Hein, une femme qui se fait taper dessus, elle ne le veut pas. Mais il y a quelque chose qu'elle joue inconsciemment, une carte qu'elle joue inconsciemment. Donc il y a ça, mais il y a les mots physiques. Tout a un sens, un dyslexique, tout a un sens, tout a une raison, et il y a une blessure derrière qui peut être propre à nous. Mais si elle est propre à nous, elle peut être aussi propre à notre famille ou sur le plan de survie, parce qu'on est fabriqué pour la survie. Voilà. Bon, peut-être ça vous bouscule un petit peu ce que je vous dis. Je sais que ça sort un peu de l'ordinaire, mais c'est pour ça que j'ai des gens qui viennent des fois de loin pour trouver une solution.
Je crois que ça permet d'introduire aussi le thème du bonheur. Je voulais, parce qu'on parle beaucoup d'entreprises libérées aujourd'hui, de formes de réflexion sur le bonheur, sur le bien-être au travail, donc j'aimerais aussi le point de vue d'un chef d'entreprise et d'un consultant peut-être là-dessus. Aux salariés sont heureux.
Ça serait bien qu'il soit là pour le dire, plus que moi. J'espère.
On parlait tout à l'heure de, justement du monde de l'entreprise et la dimension, en fait, il y a un mot chez nous qui est important, c'est le plaisir. C'est-à-dire que le code du travail peut être embêtant en tant que chef d'entreprise. Alors, je ne dis pas qu'on le contourne, parce que ça ne serait pas bien de le dire, en plus on est enregistré. Il y a juste une chose, c'est que j'ai remarqué que un salarié qui travaille heureux, qui aime ce qu'il fait, il est mille fois plus productif que quelqu'un qui le fait sous la contrainte et qui le fait dans un cadre forcé. Chez nous, par exemple, il n'y a pas de pointeuse. Il n'y a pas d'objectif. Alors ça peut paraître arrogant de dire ça, mais c'est que chacun dans l'entreprise sait combien l'entreprise gagne. Il y a des primes qui existent, mais ce sont des primes à l'entreprise. Il n'y a aucune prime individuelle. Il n'y a pas d'horaire, donc je le dis. Ils arrivent quand ils veulent, ils partent quand ils veulent, ils sont libres. En fait, comme je dis, on a fait un petit Google chez nous. Alors Google avec le plus et le moins, hein, enfin, après on peut aimer ou pas, hein, enfin, il n'y a pas que du bien chez Google. Mais on a fait un petit système qui fait que... alors je suis le pilote, hein, y a un chef quand même, il faut dire ce qu'il est. Mais les gens dans l'entreprise, en fait, ils sont chez eux d'une certaine manière dans leur temps de travail. Et pas d'objectif individualisé. Alors c'est pas une grande collectivité. Mais la réalité, c'est que ça permet d'avoir une très très bonne rentabilité. Alors pour ceux qui travaillent dans la finance un petit peu, on a 20 points de rentabilité nette. Alors, je sais pas, ça dit peut-être pas grand-chose à ceux qui... voilà, j'ai 20% de marge nette, alors que j'ai 0% d'objectif individualisé. Voilà, c'est juste pour dire que, en dépit de certains discours qui disent il faut mettre des objectifs, il faut être à la pression, il faut être dur, c'est archi faux. Enfin, il faut être vigilant, il faut suivre, il faut discuter, il faut échanger, il faut parler. Mais après, mettre les gens dans un système obligatoirement individualisé, je suis pas forcément d'accord. Sans qu'on soit dans un système collectiviste, en fait. Voilà, c'est pas un système collectiviste. Je vais faire juste un tout petit parallèle par rapport à ça, et après je rends le micro. Il y a eu un exemple qui ressemble un petit peu à ça, c'est un village dans le nord d'un pays nordique, où ils ont décidé d'enlever tous les panneaux de signalisation, les panneaux routiers. Ils ont enlevé les stops, ils ont enlevé les warnings, parce qu'ils se rendaient compte, dans ce village, il y avait plein d'accidents de la route. Ils ont tout enlevé. Je crois que c'est en Suède, hein, il me semble. C'est en Suède, oui. Quelqu'un connaît l'exemple, oui. Ils ont tout enlevé, parce qu'en fait, ils avaient un problème. Et à partir du moment où ils ont tout enlevé, les gens se sont sentis responsables, parce qu'ils se sont dit, attention, je peux avoir quelqu'un qui va débouler de gauche, de droite, un piéton. Il n'y a plus eu un seul accident depuis. Ça fait 2-3 ans que l'expérience arrive, plus un accident. Et pourquoi je fais ce parallèle? C'est tout simplement, à partir du moment où on parle aux gens comme à des adultes, ils se comportent en adultes. Si on leur parle comme à des enfants, ils vont se comporter comme des enfants.
Juste un petit mot par rapport à ce que vous dites là sur les panneaux de signalisation. Ça me rappelle une expérience qui m'a beaucoup marqué. Avec, j'ai un ami griot en Afrique. Donc le griot, c'est le musicien traditionnel. Et je suis allé faire un séjour chez lui, travailler avec lui. Et alors, j'avais loué la moto d'un de ses copains. Et donc, la circulation au Burkina, c'est un peu différent d'en France. Et alors, son copain qui me louait sa moto me déroule tout le code de la route en me disant, alors attention, là, c'est une priorité, là, c'est comme si je ne savais pas conduire. Bon, je l'écoute, et en souriant intérieurement. Et alors ensuite, mon pote me dit, bon, écoute, ici... Pour rouler, c'est simple, il y a une seule règle. Tu fais gaffe à toi-même. Et là, je me suis dit, mais oui, il y a des trous dans la route, il y a des buffles, il y a des chèvres, il y a des gamins, il y a des bus qui roulent à contresens, il y a des camions qui te grillent, il y a des gens qui te doublent à droite, à gauche, dans tous les sens. Oui, tu fais gaffe à toi-même. Et si tout le monde fait ça, c'est extrêmement responsabilisant. Et je trouve que c'est une attitude générale dans la vie qui est extrêmement puissante, de prendre sa propre responsabilité. Là où on peut l'apprendre.
Là, vous parlez d'or. Vous parlez d'or. Donc, les réglementations, disons, ne servent pas à grand-chose, sinon à aggraver le nombre d'accidents.
Voilà. Oui, c'est une généralité un peu hâtive. En ce qui concerne le 8 mai que vous avez très justement soulevé, en fait, mon 8 mai était un 8 mai pour aller plus loin. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, vous vous mettez dans un cas où vous risquez d'avoir, disons, une puissance publique qui va vous attaquer pour ceci, pour cela. Donc, il faut d'abord supprimer ces risques. Et donc, c'est un 8 mai positif. C'est pas un 8 mai négatif. C'est un 8 mai pour aller plus loin, pour aller vers plus de liberté.
Est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans la salle ? Et je crois qu'Aude a peut-être quelque chose à nous dire sur la COP21.
Alors moi, je me présente. Donc j'ai un projet de création d'entrepreneuriat dans le domaine artistique et faire des interventions donc à domicile et également dans les collèges ou les écoles sur un projet soit d'architecture et patrimoine. Donc là, je suis en relation avec la maison d'architecture aussi, les élus. Et voilà, donc plusieurs démarches. Donc c'est vrai que mon projet, en particulièrement sur l'architecture, est lié vraiment avec l'environnement, aussi les énergies renouvelables. Et j'ai un autre projet qu'on a mis en place avec mon époux, un projet de développement au Cambodge suite à un autre voyage, parce que mon époux donc est cambodgien. Donc on y avait été il y a 9 ans, on est retourné il y a 1 an. Et on a vu qu'il n'y avait pas énormément d'évolution entre presque 10 ans. Là. Donc tout ce qui était au niveau des déchets, de l'eau, assainissement de l'eau. Donc là, on a réalisé un projet de développement ce qui va traiter de tout, environnement, eau, assainissement et éducation également, pour sensibiliser aussi toutes ces personnes à l'environnement. Donc le projet a été sélectionné par la COP21. Voilà. Donc c'est vrai que tout ce qu'on a pu discuter est très, très enrichissant et très intéressant. Ouais. Donc je pense que nous, en tant qu'individus, avec tout ce qui se passe, avec le numérique, l'évolution, je pense que c'est important de prendre un petit peu de distance et pouvoir réfléchir aussi, quel est notre sens à notre vie, de ne pas avancer brutalement comme ça. Je pense qu'il faut prendre le temps aussi de réfléchir et prendre conscience que notre environnement, il est là. Et si on ne veut pas nuire à tout ça, même aux Cambodgiens, essayer de les aider au quotidien pour qu'ils s'en sortent. Donc on a une relation aussi depuis 1 an. On a fait intervenir des étudiants du Cambodge. Donc 5 étudiants qui viennent en France, donc qui font partie de l'école d'ingénieurs à Battambang. Et nous, on les accueille à la maison où on trouve un logement sur place, là. Et vraiment qu'ils essaient de pouvoir voir ce qu'on peut offrir, nous, en France, de positif. Et après, quand ils vont repartir dans le pays, pouvoir les aider sur place à créer, puis qu'ils deviennent vraiment responsables et autonomes, qu'ils trouvent des initiatives. Parce que je pense que là, ils ont du mal encore, les jeunes étudiants cambodgiens, à trouver des initiatives. Et puis, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de corruption. Donc pouvoir les aider, nous, en tant que Français, Européens ou du monde entier, à faire quelque chose à ce niveau-là. Merci,
Aude. Puisqu'on est ton voisin et juste à côté, peut-être nous parler d'entrepreneuriat culturel, de ce qu'il fait avec une entreprise.
Oui, je peux. moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'étais intervenant culturel. Alors, la base de mon activité, c'est plutôt les écoles pour faire des cours d'histoire de l'art. Avec les jeunes, vous savez que l'histoire de l'art était inclue dans tous les programmes de tous les niveaux à l'école, sauf qu'on n'a absolument pas prévu ni de formation pour les professeurs ni d'historien de l'art pour le faire. Donc j'essaye dans mon activité de compenser un petit peu ça en mettant des dispositifs et des boîtes à outils. Et puis par échange au sein de la plateforme Créativité et Territoire, il faut le dire hein, et remercier aussi, donc c'est passé par là, rencontrer un entrepreneur que vous connaissez peut-être, donc Jean-Marc Neveu, qui a présidé le CJD et qui est aussi responsable d'Entreprendre pour apprendre, à faire de la culture au sein de l'entreprise également. Alors dans une acceptation différente, c'est-à-dire pas une vision CE un petit peu descendante, où on ferait une résidence artiste, quelque chose comme ça, de descendant vers les salariés. Parce que dans dans un modèle descendant, il y a aussi un petit peu quelque chose de condescendant, et puis quelque chose surtout qui ne profite pas forcément à l'entreprise, puisque moi, l'intérêt de mon action, c'est quand même de développer l'entreprise au final, et que l'entreprise soit plus riche après intervention qu'avant. Donc il en reste quelque chose. Et donc pour une industrie, dans le cas particulier de celle-ci, qui faisait du thermoformage plastique à usage très très industriel, proposer une ouverture culturelle qui permettait aux salariés de s'interroger sur l'activité, d'une part, notre rapport aux objets, pourquoi produire des objets et pourquoi est-ce qu'on aura toujours effectivement besoin d'objets. Ils étaient convaincus de ça, mais sans savoir exactement pourquoi. Et puis un rapport peut-être plus culturel et plus esthétique à la reproduction d'objets, en passant par des notions liées au design, en passant par ce genre d'une histoire mêlée, histoire de l'art d'un côté, histoire des objets de l'autre, pour voir la collision entre les deux, les grands grands succès d'entreprises qui se sont basés sur ce modèle-là pour eux se réinterroger, se réapproprier leur outil de production. Voilà. Alors c'est expérimental, c'est la première fois que c'est proposé dans son entreprise, évidemment, et puis que je le fais moi, que je le propose à quelqu'un, on réfléchit ensemble à ça, et c'est un peu au jour le jour. Mais je pense que c'est un schéma qui peut être profitable à beaucoup, beaucoup de profils d'entreprise. Voilà.
Merci, le témoignage, Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. Allez-y, vous me présentez en même temps.
Fabienne Lancella, Université de Poitiers. J'avais une question là sur la question de la créativité, parce que j'aurais aimé avoir vos points de vue sur, alors à part le « et », le « mais », enfin le débat qui a été un peu abordé, selon vous, quels sont les éléments qui favorisent la créativité ou ce qui est castrateur de cette créativité et comment est-ce qu'on peut amplifier des idées nouvelles ou des actions nouvelles? Donc à votre niveau, à vos différents niveaux, comment est-ce que vous avez pu le vivre? Quelques témoignages ou expériences? Je vous remercie.
Oui, d'ailleurs, tu as parlé de créativité à un moment donné, je trouve ça intéressant. Voilà, je sais pas, tout le monde est interpellé, je crois, là.
Merci. Vous parlez d'un côté de mon expérience personnelle et de l'autre côté de ce que j'ai pu voir sur le terrain. Dans mon expérience personnelle, donc moi je suis aussi créative comme chacun d'entre nous. Et ce que j'observe, c'est qu'effectivement j'étais très créative quand j'étais enfant. Et puis en grandissant de moins en moins parce que j'avais peur que mon dessin soit pas assez beau, fallait pas dépasser. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de contraintes qui arrivent comme ça. Je me souviens aussi de ma fille quand elle était petite qui disait que les gens étaient violets, rouges, oranges, bleus ou verts et qu'ils avaient des formes. Et nous, on trouvait ça mignon et rapidement, les enseignants lui ont dit « Bon, écoute, tu arrêtes de dire n'importe quoi. » Et le pire, c'est que quand elle disait « Mais si, maman, tu sais, la dame carré jaune », on voyait très bien qui c'était, en fait. C'était vraiment marrant. Et donc, c'est vrai que je pense que nous avons effectivement un cadre assez rigide avec des normes. Nous avons, je pense, un système scolaire français qui est particulier, dans lequel, qui est quand même assez normalisant, dans lequel, effectivement, peut-être que les enfants, au bout d'un moment, ont une créativité relativement bridée. On voit bien aujourd'hui, par exemple, en France, un jeune va lever le doigt pour répondre à un prof si vraiment il est sûr de ne pas se planter et qu'il va avoir la bonne réponse, tandis qu'un jeune d'un pays qui fonctionne différemment, je pense par exemple à la Finlande ou aux États-Unis, il va même limite presque provoquer le prof par la contradiction, parce qu'il y a cette espèce de joute intellectuelle qui est passionnante et qui est enthousiasmante, qui en France est auto-censurée, enfin, est réellement censurée dans l'imaginaire collectif. Ce qui fait que ça fait de nous des adultes qui ont peur. Cette espèce de peur de mal faire, cette espèce de peur symbolique de ne pas combler le parent, fait de nous des personnes qui sont bridées. Et je crois que peut-être un des chemins personnels, c'est sa propre transformation, qui passe par tout un tas de processus, comme le lien à l'autre, etc., qui permettent de faire tomber les peurs. Et je crois que faire tomber les peurs, savoir les diminuer, permet de faire réémerger, refleurir cette créativité que l'on a chacun en nous. Et sur le plan de mon expérience de terrain, donc moi je suis attachée de presse, ça c'est mon métier, et je travaille dans trois domaines que j'ai choisis, qui sont la question des territoires, la musique et l'écologie. Voilà. Alors ça peut paraître un peu patchwork, mais moi, ça me parle et j'ai beaucoup de plaisir à monter des concerts, des festivals, etc., et à travailler avec des musiciens. J'ai beaucoup de plaisir à monter tout un tas d'initiatives. On parlait de créativité. Là, je suis sur un projet de recycling party où, en fait, on organise un concert. Donc, on va chercher du partenariat public-privé, du mécénat bancaire. Et on fait un concert, un spectacle pour toute la famille, où les gens viennent en amenant en échange un des trois œufs, c'est-à-dire un appareil électrique qui ne fonctionne plus. Et vous avez le droit de rentrer, enfin, vous avez un billet pour le concert en échange de laisser un appareil électrique. Alors c'est rigolo parce qu'il y a des villes qui ont fait ça. Il y a des gens qui amènent des frigos, des congélateurs, des machines à laver. C'est pas simplement le batteur à œuf qui marche plus. Et ça peut être des trucs vraiment très volumineux. Alors c'est marrant, ça fait des montagnes d'objets électriques cassés. Du coup, il y a toutes les entreprises d'insertion, de toutes les ressourceries, etc., qui viennent, qui font des animations. Il y a aussi des performances artistiques. Chez nous, par exemple, nous avons à Limoges la chance d'avoir un artiste haïtien, Sébastien Jean, qui travaille énormément à partir de déchets ou d'objets réformés. Il fait des créations juste magnifiques. Et finalement, c'est voilà. Et on a aussi Veolia qui va venir dire finalement, ça m'intéresse. Là, j'ai mis 3000 balles pour faire du greenwashing. Et puis tiens, finalement, l'économie circulaire, c'est la relocalisation de l'économie, c'est la sécurité des emplois, c'est voilà. Et finalement, au niveau de la créativité, pas forcément uniquement artistique, on a tout un tas de choses qui se passent. Je repense encore toujours sur l'économie circulaire, l'entreprise SEB. Ça fait bien longtemps que les entreprises qui font du petit électroménager en France ne vivent que grâce au marketing. Et encore, on a vu avec Moulinex, ça a planté il y a quelques années. C'est-à-dire que Moulinex, les dernières années, pour survivre, vous aviez la gamme gris, pain, machine à café et je ne sais plus quoi. Alors, une année, c'était vert pour la Saint-Valentin. L'année d'après, c'était rose pour la fête des mères, etc. Donc, l'idée, c'était de créer une mode et donc une démode. Donc, il fallait absolument que l'appareil ménager, même s'il fonctionnait encore, ne soit plus à la mode pour pouvoir vite en acheter un autre, etc. Et ce système-là s'est effondré. Moulinex, 6000 emplois en moins. Bim, en France, ça a été quand même un peu difficile, avec des ouvriers de plasturgie hyper formés, complètement inadaptés à d'autres tâches, hyper spécialisés, hyper conscients d'avoir des très hautes formations en plasturgie, mais complètement coincés dans ces voies-là, quoi. Et une autre entreprise, SEB, qui est une entreprise aussi très ancienne, qui a plus de 100 ans d'existence, s'est posé la question de se dire, mais nous, bon, c'est une question d'année, on va y aller aussi, comme Moulinex, on va se planter. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et l'entreprise SEB, les dirigeants de SEB, c'est une entreprise familiale, en rencontrant des types qui travaillaient dans des ressourceries, qui travaillaient avec le groupe Envie, je ne sais pas si vous connaissez, ça existe partout en France. Envie, en fait, c'est une entreprise d'économie sociale et solidaire qui récupère par exemple des machines à laver cassées, qui change les moteurs, enfin qui les met à neuf et qui les revend pour un prix très peu cher. Donc beaucoup d'étudiants achètent des appareils électroménagers chez Envie, vous pouvez avoir une super machine à laver vedette qui va marcher encore pendant 20 ans. Voilà. Et donc SEB s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et ils ont discuté avec Intermarché. Et Intermarché, dans la grande distribution, c'est pas le plus clean. Vraiment, vraiment pas. Et Intermarché a aussi un petit peu ouvert la porte en disant, on va discuter avec SEB de travailler sur la question de l'usage plutôt que sur la question de la propriété. Et c'est ainsi qu'est née une révolution totale du modèle de développement économique de l'entreprise SEB, puisque maintenant, avec les comptoirs Intermarché, vous allez acheter chez SEB l'usage d'un appareil. S'il ne fonctionne plus, vous le ramenez, on vous le remplace, on vous change. Alors, c'est des systèmes, après, c'est des process industriels avec des moteurs uniques, etc. Donc, si vous voulez, les pièces sont toujours les mêmes et sont interchangeables d'année en année, quoi. Donc, c'est pour eux, pour faciliter. Et donc, c'est des systèmes super, super intéressants. Et donc, vous allez utiliser... c'est la société de l'usage plutôt que de la société de la propriété.
Juste peut-être pour prolonger un peu la question qui était posée, c'est cette éducation à la créativité, parce que par exemple l'université de Poitiers, mais comme d'autres universités, a mis en place un programme dit université créative, qui malheureusement ne fonctionne pas très bien, parce qu'effectivement, des jeunes qui ont 20 ans, 22 ans, mais qui ont subi, entre guillemets, l'éducation peu créative dont vous parliez, c'est pas à 22 ans qu'on va tout d'un coup déclencher une source de créativité formidable. Donc c'est un processus de long terme. Je sais pas comment. Bon, voilà, juste.
Alors justement, je voulais parler justement de la jeunesse et de la créativité, parce que je rebondis sur le fait que madame soit universitaire, enfin de l'université. Tout à l'heure, je faisais un petit parallèle. Il est toujours plus facile de gérer les extrêmes que l'équilibre. Je vais opposer créativité à conformisme, efficacité. Et en fait, c'est un parallèle très très facile et très 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 très, très direct. La réalité, il faut les deux pour que ça marche. Je vais prendre un cas provocant. Aujourd'hui, dans l'éducation, on a tendance à vouloir pousser au maximum la créativité des jeunes. Pas dans les petites écoles. Enfin, moi, j'ai vu un certain nombre d'enseignants. Et au point même, enfin, c'est vrai de la part des parents, des enseignants, au point que vous avez parfois des enfants qui vous produisent des choses absolument incroyables. Je cite ce mot-là. Et finalement, c'est un travail assez facile où il n'y a pas beaucoup d'efforts, mais finalement on va dire ben non, c'est la créativité, c'est le travail qui a été créé par l'enfant, et finalement on ne va pas être très très exigeant là-dessus. Et aujourd'hui, sous prétexte que c'est de la créativité, on ne va pas pouvoir dire quoi que ce soit. Et je pense que la réalité, c'est qu'on arrive à un travers. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas de créativité, attention, hein, je pousse exprès le discours dans un sens. On va en fait on va laisser les gens dans le confort en disant il est créatif, et on génère beaucoup beaucoup d'individualisme en fait, de confort pour certaines personnes, où on les laisse ne pas rentrer dans un système où il faut quand même aussi avoir un sens d'efficacité, de rigueur et de fonctionnement du sens commun. Et finalement, on va d'une certaine manière les marginaliser. Alors moi, en tant que chef d'entreprise, je vois des jeunes qui sortent en fait de l'éducation, hein, qui aujourd'hui pensent être des très très grands créatifs, mais vraiment des très très grands créatifs. Et quand on voit ce qu'ils produisent, c'est un petit peu... Il n'y a qu'eux qui pensent qu'ils sont créatifs en réalité. Et quand on leur dit, alors ils tombent des nus. Mais en plus, ils tombent des nus, mais honnêtement. Et moi, ça me fait mal au cœur. Ils tombent des nus honnêtement parce que parfois, quand ils rentrent dans le monde de l'entreprise, c'est la première fois qu'on est, à mon avis, nous-mêmes honnêtes avec eux. Parce que nous ne sommes pas leurs parents, nous ne sommes pas leurs professeurs, et on leur dit clairement, ce que tu produis, je suis désolé, mais non, c'est pas ça, ça vaut rien. Et alors pas tous, heureusement. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les garde pas. On va pas les garder parce que, vous savez, tout à l'heure, moi j'avais un discours qui est quand même humain. Mais je ne suis pas qu'un humain, on a un objectif aussi de rentabilité, de faire fonctionner un système. Et quand on a des jeunes qui rentrent et qui ne sont pas efficaces, on ne va pas les garder. On ne les garde pas, hein, parce que ce n'est pas un monde gentil quand même, l'entreprise. Il ne faut pas croire, hein, ce n'est pas un monde gentil. Donc la créativité, il faut la pousser en fait. Il faut la pousser, mais il faut un équilibre entre cette créativité qui est obligatoire, qui est nécessaire, mais la créativité simplement qui se fonde sur rien du tout, sans efficacité, sans rigueur, ça ne marche pas très très bien en réalité.
C'est justement par rapport à ce que vous dites, ça serait bien de tisser le lien justement entre l'école et le monde de l'entreprise, par rapport par exemple à des logiciels. C'est qu'on sort des Beaux-Arts, des fois, on n'a pas les logiciels adaptés pour le monde de l'entreprise. Donc, on est obligé de refaire des formations supplémentaires. Et ça, je trouve ça dommage, quoi. Donc, vraiment, qu'il y a un énorme travail à faire, je pense, peut-être, avec les artistes et créateurs dans le monde de l'entreprise aujourd'hui.
Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire de l'histoire de l'art, parce qu'on a un regard sur la créativité, mais surtout, on apprend que la créativité, ça peut être très, très, très exigeant.
Alors, si j'ai bien compris votre question, c'était comment fait-on pour améliorer la créativité ? C'était ça ? Les écueils, les freins à éviter, d'accord. Alors, en termes de principe, il s'agit de redevenir un petit enfant. Il y a, je ne sais pas, peut-être vous connaissez ce monsieur qui s'appelle Ken Robinson. Voilà, il est Lord. Sir Ken Robinson. Il est, c'est quelqu'un qui... Oui, c'est ça, l'élément, trouvez votre élément. C'est un intervenant qui... C'est quelqu'un qui est consultant aujourd'hui, qui vient de l'éducation, qui était professeur d'art à la fac en Angleterre, et qui aujourd'hui conseille des gouvernements, l'Europe, etc. Et qui a une réflexion assez poussée, assez pointue sur l'éducation et les enjeux de l'éducation aujourd'hui. C'est-à-dire dans un monde qui se transforme d'une manière extrêmement rapide et extrêmement radicale, comment fait-on pour former les jeunes à un avenir dont on ne sait même pas dans 5 ans ce qu'il sera ? Comment on prépare des gens à vivre, à être adultes dans 20 ans, alors que dans 5 ans, on ne sait même pas ce que sera le monde des adultes. Il est dans ces questionnements-là. Et c'est quelqu'un qui est très intéressant à regarder. Vous pouvez trouver des vidéos de lui sur YouTube, sous-titrées en français. Et alors, il a un regard... j'ai perdu le fil de ma pensée, ça va revenir. Oui, c'est ça. Voilà. Il commente une étude qui a été faite sur des tests psychométriques de créativité. Il fait cette étude, enfin, il commente cette étude qui a été faite sur des enfants de 3 à 6 ans, à peu près. Et donc, c'est une échelle qui mesure la capacité créative en pourcentage, un peu comme on mesurerait du QI. Sur les enfants de cet âge-là, à votre avis, combien il y en a qui ont un score de génie ?
Je ne savais même pas qu'on pouvait faire de la psychométrie pour la créativité, moi. Je suis surprise.
Un chiffre au hasard, combien de scores de génie ? 98%. 98% des très jeunes enfants, donc avant de savoir lire, ont des scores de génie. Et ensuite, on refait ce même test, hein, le même test, au fur et à mesure qu'ils grandissent, et la courbe va en descendant, et on se retrouve avec seulement 2% de génie chez les adultes, au test de créativité. Donc vous parliez tout à l'heure de l'école qui norme et qui bride quelque part, et c'est vrai, c'est un constat. Après, moi je ne suis pas partisan de casser ce cadre. Je pense qu'il a une énorme utilité. Il nous permet de vivre ensemble. Si on n'a pas de règles, si on n'a pas de cadre, de normes, on ne peut pas vivre ensemble. Ou en tout cas, je ne sais pas comment on fait. Ça s'invente. Ça reste à inventer. Mais par contre, en tant qu'adulte, on est capable de mettre de côté les choses parfois. Et donc, une deuxième règle fondamentale en créativité, c'est la suspension du jugement. C'est-à-dire que quand on fait un travail créatif avec une équipe, quand je suis facilitateur d'une équipe qui veut mener un travail créatif autour d'un projet, il y a toujours un objectif. L'objectif, il est défini selon des critères. Les critères, ils sont mesurables avec des indicateurs. Donc on a quelque chose d'extrêmement concret. On veut atteindre quelque chose d'extrêmement précis. Et vous parliez tout à l'heure de grande exigence de la créativité. Et c'est vrai. C'est absolument vrai. Mais pour atteindre ces choses-là, pour atteindre cet objectif, sachant qu'on ne connaît pas la réponse, on n'a pas l'idée, on veut la fabriquer, l'idée. Et comment on va faire ? Et pour fabriquer cette idée, on va casser le cadre pendant un temps donné. On se dit que voilà, on va bosser ensemble pendant 5 heures, et que pendant ces 5 heures, on s'interdit le jugement, on suspend le jugement. Ça ne veut pas dire qu'on ne juge pas. On juge en permanence. Juger, c'est évaluer. C'est comparer les choses avec ce qu'on sait, avec ce qu'on croit, avec ce qu'on est, avec ce qu'on ressent. C'est ça, hein, le processus d'évaluation qu'on fait, nous, en permanence, tous. Simplement, on peut s'autoriser à ne pas le rendre public et à ne pas le laisser nous dominer pendant quelques heures. On s'autorise à sortir de notre zone de confort pendant quelques heures, pendant le temps imparti de la réunion. Donc, la suspension du jugement, ça fait partie du « oui mais », du « oui et ». C'est la même chose. Donc suspendre le jugement, avoir cette capacité. Alors ça se travaille, hein, c'est pas évident. Hein. C'est sûr que c'est pas évident. Quand on se retrouve parfois devant quelqu'un qui nous tient un propos ou qui nous propose quelque chose qui nous semble extrêmement heurtant, ça peut être très difficile. On peut ne pas y arriver. Mais ça s'apprend, c'est comme tout. Donc ça c'est un créaticide, c'est le jugement hâtif. Une autre règle, c'est de garder toutes les idées, absolument tout, Alors si on faisait intervenir des martiens, oui, super idée, on garde. Attends, c'est complètement débile de faire intervenir des martiens. Oui, mais si je dis ça, je suis dans le jugement. Et donc je vais contre la règle qui permet la créativité. Donc on peut s'autoriser des idées complètement absurdes. Parce que qui nous dit que dans une heure, il ne va pas y avoir quelqu'un qui va utiliser cette idée de faire intervenir des martiens comme une métaphore, ça va lui faire penser à quelque chose. Il va se dire, mais oui, mais les martiens, attends, c'est mon pote au Cambodge. Lui, il fait un truc avec sa famille. Voilà. Pourquoi pas? Donc on garde tout pendant un temps donné. Et puis après, on filtre. Et on filtre selon des critères pertinents. Et ces critères pertinents, on s'autorise aussi à les remettre en question au vu de ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est un phénomène dynamique. C'est-à-dire que l'objectif qu'on s'est fixé au départ, qui a peut-être été fixé par un CODIR il y a 3 mois, et que maintenant on est chargé de réaliser avec une équipe marketing ou avec une équipe R&D, peut-être que cet objectif-là, il n'est pas pertinent au vu des enjeux. Mais on n'en sait rien sur le moment. Peut-être que la réflexion créative, au bout d'un moment, va nous permettre de comprendre qu'effectivement, cet objectif tel qu'il est défini, il ne répondra pas à la problématique. Et donc, on se permet... Et là, on est dans le processus du design thinking. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Voilà, la pensée design, qui consiste à prototyper, à avoir une approche vraiment centrée sur le client, donc sur le demandeur, sur la réponse à fournir. Et les informaticiens sont très forts là-dedans. Les informaticiens, ils sont extrêmement créatifs, les développeurs, parce qu'ils agissent dans des contraintes, dans des pressions de temps et d'enjeux économiques qui sont monstrueux. Ça doit être les gens les plus pressurisés de la planète, je pense, ceux-là. Et ils ont développé des méthodes qui s'appellent les méthodes agiles, qui sont extrêmement efficaces et qui permettent à n'importe quel moment de remettre en question tout le processus et les règles de fonctionnement, et l'attribution des tâches, et des responsabilités, la répartition des rôles. Ils sont dans une flexibilité incroyable. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent être très utiles. Après, voilà, je ne sais pas comment répondre à votre question qui est quand même assez large. Ouais. D'accord. Ok.
Bien, je ne sais pas si pour Max Falk, ça nourrit sa réflexion pour le colloque international. Est-ce qu'on a apporté... Alors, dans quel sens ?
Oui, notamment ce que vous avez dit là sur la créativité, moi ça m'ouvre des perspectives quoi. C'est un discours qu'on doit tenir à des notamment à des industriels et c'est pas évident de faire passer le message parce qu'ils ont eux-mêmes des contraintes. Mais enfin tout ça, disons, et moi ça me nourrit. Je ne sais pas ce que j'en retirerai, mais notamment ce que vous avez dit, c'est très très intéressant. Maintenant, je voudrais aussi revenir un petit peu sur la notion de développement durable dont on nous rebat les oreilles. La notion de développement durable a été développée par Madame Gro Harlem Brundtland. Qui a écrit un bouquin, Notre avenir à tous. Et alors, elle s'était renseignée, elle avait fait le tour du monde, elle avait, disons, trouvé des grands penseurs du développement durable, notamment Mugabe et Fidel Castro. C'était ses inspirateurs. C'est un peu léger, compte tenu des résultats de Mugabe et de Castro. Bon, mais il y a à la fin du livre... qui s'appelle Notre avenir à tous, donc, des recommandations. Et il y a environ 25 recommandations qui disent les États feront, les gouvernements veilleront à, etc., etc. Donc, elle reporte toute la responsabilité sur les gouvernements. Quand on connaît l'état d'inefficacité de la plupart des gouvernements du monde, on se demande où est-ce qu'on va. En fait, le développement durable, c'est plutôt la catastrophe.
Bien, je ne sais pas si on va conclure là-dessus, mais simplement, moi, je reviens quand même sur la créativité, parce que je crois que c'est ça l'essentiel. Donc, si vous avez... parce que là, on avait un témoignage d'une antenne, mais je crois que Créa France peut contribuer à condition de les solliciter. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans nos journées d'automne, on avait Édouard Le Maréchal, qui est le président, je crois, de l'association. Ils ont eux-mêmes, j'en ai parlé cet après-midi, leur colloque national en janvier. Je pense que, enfin, pour ma part, pourquoi je voulais organiser cette table ronde aussi, d'une certaine façon, qui était une commande de Didier, par ailleurs, pour s'inscrire dans le cadre de la COP, c'était au fond de sortir un peu aussi des vieux débats, un peu qui, à mes yeux, sont assez stériles, qui n'avancent pas beaucoup, d'où la nécessité de la créativité et de fausses oppositions. Par ailleurs, je pense qu'effectivement, dans l'écologie, dans l'éco-créativité, on a besoin de cette créativité-là, on a besoin de faire appel aussi aux humanités classiques, au contenu intellectuel, à la pensée, à la philosophie, parce que je pense qu'autrement, c'est d'une pauvreté parfois affligeante quand je vois certains niveaux de débat. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, là, c'est l'enjeu, il est là. Et je parlais tout à l'heure de la rencontre qu'on avait eue avec le CJD, avec philosophes, artistes professeurs de latin, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et je pense que c'est dans cette voie-là, moi personnellement, c'est dans cette voie-là que Créativité Territoire, on poussera un peu la logique. Alors je ne sais pas si ça peut répondre à votre interrogation pour le colloque international, mais il me semble que c'est dans cette voie qu'il faut avancer un petit peu dans l'ordre de l'idée, de l'imaginaire, de la pensée, parce que sinon on risque quand même de s'appauvrir un peu les uns et les autres. En tous les cas, ce n'était pas le contenu de la table ronde cet après-midi. Moi, je suis tout à fait satisfait de vos interventions les uns les autres. Je ne sais pas si dans ceux qui ont écouté, ça a été le même intérêt. Mais en tous les cas, c'est qu'un point de départ. Merci à tous d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir accepté cette règle du jeu qui n'était pas évidente, qu'on a des points de vue assez différents sur cette question. Mais justement, comme tu le disais, Stéphane, c'est peut-être aussi sortir d'un peu de nos préjugés et accepter l'autre dans son débat. Voilà. Merci en tous les cas.
Merci.